Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneau.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Europe Soir, deux heures d'infos, de décryptage et de débat. Il est 18h. Au sommaire, semaine politique dense en vue, remaniement puis discours de politique générale pour Elisabeth Borne. Le week-end a été studieux pour le couple de l'exécutif. D'ailleurs, quelle posture va arborer le président absent de la vie politique française depuis plusieurs semaines? Élément de réponse avec Louis Dragnel dans un instant. La politique, c'est aussi l'affaire Coquerel. L'intéressé publie une tribune dans le journal du dimanche ce matin pour s'expliquer. Il nie en bloc et fait remarquer qu'il n'y a aucune plainte adossée à la rumeur. La politique, on en parle dans cette première heure, d'abord avec le député écologiste du Val-d'Oise Aurélien Taché, et ensuite avec, dans Ça fait débat, Patrick Caram, vice-président de la région Île-de-France, et la communicante Marie-Virginie Klein. Grève des aéroports de Paris hier, pataquès pour de nombreux passagers. Question pratique, comment se faire rembourser son billet et à quelles conditions? On vous donne la réponse. L'actualité, ce sont aussi les craintes de plus en plus grosses de voir revenir une épidémie de Covid. L'épidémiologiste Benjamin Davido prévoit un pic pour le mois d'août. Le pouvoir d'achat au cœur des Français, reportage dans un supermarché. Vous entendrez que les choix sont de plus en plus scrutés. Le Tour de France, le Belge Van Aert, toujours en jaune. Dernière étape au Danemark. Aujourd'hui, nous retrouverons Axel May et Martin Lange au point d'étape avant de leur rendre l'antenne à 19h40. La Formule 1 de la casse à Silverstone dès le premier tour. Un grand prix suspendu, le récit en fin de journal. 19h15, panorama, César à Gergovie, magnifique exposition qui vient de débuter au musée archéologique de la bataille, juste à côté de Clermont-Ferrand. Idée d'étape pendant vos vacances. Tout à l'heure, on refait la bataille de Gergovie, avec notamment les dernières découvertes sur le site. Le chef est de retour après plusieurs semaines passées à l'étranger, enchaînant les sommets européens. Et pour cause, il terminait son mandat de président français de l'Union européenne avant de passer la main au Tchèque. Emmanuel Macron est donc de retour dans une France qui doute de lui. 29% de popularité seulement dans le dernier baromètre IFOP, loin des 41% d'il y a quelques mois, et dans une France où l'Assemblée ne lui est plus entièrement conquise. L'agenda est donc serré, le week-end a été studieux avec sa première ministre Elisabeth Borne. Louis de Ragnel, le président est au pied du mur et il va devoir agir vite.
Oui, un agenda au pas de course pour Emmanuel Macron qui entend occuper l'espace de ce début de semaine avec un remaniement qui doit intervenir demain, juste avant un Conseil des ministres. Le président a jusqu'à mardi soir pour annoncer son gouvernement au plus tard. Au-delà de la succession des ministres battus aux législatives et du remplacement de Yaël Braun-Pivet au ministère des Outre-mer, elle est désormais présidente de l'Assemblée nationale. L'enjeu pour le chef de l'État est d'enfin donner le ton de son second quinquennat qui n'a pas vraiment commencé. Plusieurs élus LR sont notamment évoqués pour rejoindre le gouvernement. Jean Rottner, le président de la région Grand Est, ou encore Christelle Morançais, son homologue des Pays de la Loire, même si plusieurs proches de l'exécutif se posent la question du poids politique de ces possibles débauchages. En clair, combien de députés ces personnalités peuvent-elles entraîner dans leur sillage? Rappelons qu'il manque 44 parlementaires à Emmanuel Macron pour obtenir une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Ensuite, mercredi, nouveau Conseil des ministres avant le discours de politique générale d'Elisabeth Borne. Pour terminer, on ne sait toujours pas si l'hôte de Matignon sollicitera le vote de confiance des députés.
Merci Louis de Ragnel pour ce tour d'horizon chef du service politique d'Europe 1. L'affaire Coquerel, le nouveau président de la commission des finances prend la plume. Ce matin dans le journal du dimanche, il fait remarquer qu'aucune plainte n'est adossée aux rumeurs qu'il entend depuis plusieurs années, allant de la drague lourde au comportement inapproprié. Éric Coquerel affirme n'avoir jamais exercé une violence ou une contrainte physique ou psychique pour obtenir un rapport, ce qui caractérise, dit-il, la porte d'entrée d'un comportement délictuel dans le domaine des violences sexistes ou sexuelles. Au dernier chiffre de Santé publique France, le Covid-19 en France, c'est plus 60% du taux d'incidence en une semaine et plus 13% du taux de positivité. La crainte, évidemment, c'est quel été? Un été cata, en tout cas un pic au mois d'août. C'est ce que prévoit l'épidémiologiste et infectiologue Benjamin Davido de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches.
Il va falloir qu'on trouve des solutions qui d'ailleurs ne passent pas que par la vaccination, mais pour vivre avec ce virus. On va malheureusement, j'ai bien peur, se retrouver dans une situation où l'été ne sera pas l'été serein qu'on avait envisagé en début d'année.
Vous prévoyez un pic donc pour le mois d'août, hein ?
Bah écoutez, oui, parce que si on regarde ce qui s'est passé au Portugal, la vague a duré à peu près 6 semaines jusqu'à atteindre le pic. Et donc, on peut espérer ou imaginer que on devrait se retrouver dans cette situation à peu près équivalente chez nous. Et ça veut dire que le virus, il est là pour rester et qu'il va falloir d'ores et déjà qu'on réfléchisse comment est-ce qu'on fait pour avoir des mesures pérennes pour protéger à la fois les Français, mais également l'hôpital à la rentrée pour que ça se passe dans les bonnes conditions.
Qu'est-ce qu'on fait ? On a retiré notre masque le 14 mars dernier. C'était trop tôt, ça veut dire ?
Je pense que c'était un message extrêmement délicat et une vraie prise de risque parce qu'on savait que si l'épidémie pouvait repartir, que la marche arrière serait quasi impossible. En réalité, c'est ça le problème.
L'épidémiologiste Benjamin Davido avec Thierry Dagiral ce matin dans la matinale d'Europe 1. Il est 18h05, dernier chiffre concernant l'inflation cette fois-ci en France. 5,8%, elle pourrait grimper à 7% en fin d'année avant de redescendre progressivement. En attendant, les Français font scrupuleusement attention lorsqu'il s'agit de passer à la caisse. Reportage de Wilfried de Villers.
Devant ce supermarché parisien, on se presse pour faire ses courses tout juste avant le déjeuner.
Là, j'ai acheté du yaourt, de boisson.
Du pain.
Bachir est retraité avec une petite pension, alors ses prix en hausse l'impactent particulièrement. Il fait désormais plus attention.
Les choses que j'ai vraiment besoin, ben je suis obligé de l'acheter, même c'est plus cher. Par exemple, j'achète un kilo, j'achète 500 grammes, ça me suffit.
Ce serait la ceinture moins consommée ou du moins consommée autrement. Véronique, elle aussi, a changé ses habitudes.
On est revenu en fait sur des produits uniquement essentiels et pas des produits plaisir. Je réfléchis à deux fois avant d'acheter des petits plaisirs au quotidien.
Et pour faire face à l'inflation des derniers mois, le gouvernement promet un chèque alimentaire de 100 euros pour les foyers les plus modestes. Bien, mais pas suffisant, estime Ange.
Le chèque de 100 euros, c'est comme une prime. Et une prime, ça va faire quoi ? C'est une fois, alors qu'on a besoin d'une augmentation salariale pour pouvoir faire face à cette crise.
Avec leurs 3 enfants, Ange et sa femme appréhendent aussi la rentrée prochaine, période importante de dépenses. Quant aux vacances, ils partiront bien au mois d'août, mais moins loin que prévu et moins longtemps.
Un reportage de Wilfried de Villers. Nous vous parlions ici même de la grève hier dans les aéroports de Paris. À Roissy, 1 vol sur 5 annulé. Une grève des bagagistes qui a mis la pagaille dans les terminaux. En attendant, la question c'est comment je fais pour me faire rembourser quand mon vol a été annulé ? Beaucoup renoncent de peur à avoir affronté des paperasses insurmontables. Écoutez les conseils de Jérémy Rosenberg. Il est directeur des opérations chez Air Indemnité.
Lorsqu'un billet est annulé, donc la compagnie doit rembourser le billet si elle n'a pas proposé de vol de réacheminement aux passagers. Donc il y a, si on doit être très très exhaustif, les frais de prise en charge. Donc si votre vol est retardé de plus de 2 heures, la compagnie doit vous proposer des frais de restauration pour patienter jusqu'au vol. Si jamais votre vol est annulé avec un report au lendemain, la compagnie doit prendre en charge les frais d'hôtel liés à l'annulation qui vont engendrer des frais supplémentaires. Et au-delà du remboursement de tous ces frais, si le passager n'a pas été prévenu au moins 14 jours avant la date du vol, elle doit lui verser cette indemnité compensatoire au regard du préjudice subi de 250 à 600 euros qui dépend, elle, de la distance du vol.
Voilà les bons conseils recueillis par Geoffrey Branger. 2 informations à l'étranger. D'abord, ce spectaculaire effondrement dans les Dolomites, dans la région de Bolzano, en Italie. Un énorme bloc du glacier de la Marmolada qui culmine à plus de 3400 mètres s'est tout simplement effondré, provoquant dans l'immédiat la mort de 6 personnes. Au moins 10 autres sont blessés. Sachez qu'en France, à Tignes, le glacier de la Grande Motte a fermé un mois plus tôt que prévu en raison de la météo. On envisage la même chose pour le glacier des Deux Alpes. Précision tout à l'heure en Italie dans le journal de 19h. Et puis attention, si vous êtes parti en vacances en Égypte, 2 touristes, dont une Autrichienne, ont été tués par un requin près de la station balnéaire d'Hurghada sur la mer Rouge. Plusieurs plages sont depuis fermées. Vous restez avec nous dans un instant. Dernière journée du Tour de France au Danemark. On revit l'arrivée qui a eu lieu il y a moins d'une demi-heure. A tout de suite.
Europe Soir Weekend, informez-vous avec Pierre de Villeneuve sur Europe 1.
Partageons la passion du vélo et encourageons les coureurs avec Total Énergie. Tout de suite, le point étape.
Le Tour de France et l'arrivée de la 3e étape à Sønderborg. Dernière étape danoise, victoire d'un Néerlandais et maillot jaune toujours sur un Belge. Mais je vais vous laisser dire les noms, Martin Lange.
Oui Pierre, le vainqueur du jour c'est Dylan Groenewegen, encore un Néerlandais, comme hier. Et comme hier, il revient de loin, Groenewegen et Jacobsen, c'est d'ailleurs deux destins liés. C'est le premier, Groenewegen qui avait fait chuter Jacobsen il y a 2 ans sur le Tour de Pologne. Lui aussi avait donc connu un passage à vide, mis au banc par le peloton qui lui reprochait son comportement violent. Il avait même été suspendu. 2 ans plus tard, il vient donc de battre tous les meilleurs coureurs ici sur le Tour, notamment le maillot jaune Wout van Aert. Celui-là, va falloir vous y habituer Pierre. Wout van Aert, encore deuxième pour la 3e fois en 3 étapes. Heureusement, il garde son maillot de leader. Dernière étape plutôt calme aujourd'hui en terre danoise, avec un héros quand même, Magnus Cort Nielsen, échappé toute la journée tout seul. Il a été acclamé par la foule et il a remporté tous les points de la montagne. Il portera donc le maillot blanc à pois rouge pour son retour en France.
Merci Martin Lange au Danemark pour Europe 1, le Club Tour tout à l'heure avec Axel May à 19h40. C'était aussi journée de Grand Prix ce dimanche à Silverstone en Grande-Bretagne, mais patatras, Christopher Fillok, le tout a dû être interrompu pour cause d'accident.
Et oui, absolument, Pierre. Départ chaotique après un crash impliquant plusieurs voitures. Dès le premier virage, Russell, Albon, Tsunoda, Ocon, Guan Yu Zhou. Des images impressionnantes d'ailleurs, puisque la monoplace de ce dernier a glissé à très haute vitesse et sur le toit, sur une centaine de mètres, pour terminer dans les grillages. Ce qui a impliqué évidemment l'arrêt temporaire de la course. Et après le deuxième départ, c'est Carlos Sainz, le poleman, qui a réussi à garder sa première place devant Max Verstappen, qui a été victime d'une panne mécanique qui a dégringolé au classement. Mais après le jeu des arrêts au stand, c'est le local de l'étape, Lewis Hamilton, galvanisé par un public acquis à sa cause, qui a pris la tête du Grand Prix au 26e tour. C'était la première fois de la saison que le pilote Mercedes se retrouvait en tête d'une course avant son arrêt au stand. Et là, figurez-vous qu'il vient d'avoir une safety car sur la piste suite à l'abandon d'Esteban Ocon. Et c'est le pilote espagnol Carlos Sainz qui est en tête. Et derrière, ça se bagarre beaucoup entre Sergio Perez, Lewis Hamilton ou encore le monégasque Charles Leclerc. En tout cas, un Grand Prix passionnant, plein de rebondissements, qui devrait se terminer dans quelques tours maintenant, Pierre.
Merci Christopher Fillok, qui est notre nouveau Dominique Brasseau.
Exactement.
Voilà, bah oui, quand même, un hommage. Le tennis à Wimbledon, c'est fini pour Caroline Garcia. La Française s'est inclinée en 8e de finale face à la Tchèque Marie Bouskova. 7-5-6-2, cette dernière devient la première qualifiée pour les quarts de finale. La météo, Valérie Darmon, encore des averses orageuses des Pyrénées aux Alpes et de fortes chaleurs dans le sud-est.
Eh bien, dans la continuité, c'est vrai, de la dégradation orageuse d'aujourd'hui, celle de maintenant pour être plus précise, dès le début de journée de la Nouvelle-Aquitaine aux Alpes, Météo France craint de nouveau des averses orageuses. Cette instabilité persiste l'après-midi, uniquement sur les reliefs du Massif central, le nord des Alpes et le Jura. Sur le reste de la France, le soleil s'impose. La journée est très agréable. Dans le sud-est, le mercure continue de grimper jusqu'à 37 degrés. Il fera entre 19 et 22 de la pointe bretonne à Dunkerque, 23 à 29 des côtes atlantiques au nord-est du pays, c'est-à-dire sur l'Alsace, la Lorraine et la Champagne. Et ce soir, c'est du Massif central aux Alpes que les orages seront les plus violents.
Merci Valérie Darmon. 18h13, dans un instant, l'interview politique. Et c'est le député du Val d'Oise, l'écologiste Aurélien Taché, désormais NUP, qui nous rejoint dans ce studio. À tout de suite.
Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Et avec nous, le député du Val-d'Oise et coprésident des Nouveaux Démocrates. Bonsoir Aurélien Taché.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Est-ce que vous êtes content d'être dans la NUP?
Écoutez, oui. Je pense qu'on n'a pas eu une aussi bonne nouvelle à gauche depuis bien longtemps. Et on a voilà, une belle alliance. Moi, je suis avec le groupe Écolo et on va faire vivre cette belle alliance pendant les 5 ans qui viennent, si la mandature dure 5 ans, bien sûr.
Que dit le Nouveau Démocrate NUP que vous êtes quant au président de la Commission des Finances NUP, accusé d'avoir eu un comportement douteux avec les femmes?
Écoutez, moi, je ne suis pas ni le témoin de moralité d'Éric Coquerel, ni celui qui a des conseils à lui donner sur le plan personnel. Ce que je vais regarder, c'est comme tout le monde. Est-ce qu'il y a bien des plaintes qui ont été déposées soit devant la justice, soit devant les cellules des mouvements politiques qui ont créé des cellules pour cela, et notamment à la LFI. Et voilà, parce que si on est sur des choses que finalement sont un petit peu comme ça, gazeuses, vaporeuses...
Sur la rumeur.
Ouais, c'est pas possible. On peut pas, encore une fois, comparer des gens qui ont reçu des plaintes pour agression, ou au moins où il y a eu des signalements clairs. Je pense bien sûr au ministre Damien Abad, et Éric Coquerel, qui a simplement, apparemment, peut-être il y a quelques années, eu un comportement... déplacé visiblement, puisque c'est ce que la personne dit elle-même, mais qui ne tombe pas sous le coup de la loi, parce que j'ai cru comprendre que la personne avait dit cela.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au stade de la rumeur, on s'en tient là, mais cela dit, le mal est fait, puisque tout le monde en parle.
Tout le monde, de la rumeur, et en plus pour des faits qui visiblement ne sont pas répréhensibles également. Donc effectivement, le mal est fait, Bon, j'ai l'impression quand même que pour le moment, chacun garde un peu la raison sur cette histoire. Éric Coquerel a été élu maintenant à la présidence de la Commission des Finances. Il n'y a pas de plainte déposée contre lui. Il n'y a pas de signalement précis déposé contre lui. Il va pouvoir faire son travail jusqu'à preuve du contraire.
Quelle attitude allez-vous adopter mercredi ? Pour l'instant, il n'est pas question d'un vote de confiance, mais est-ce que vous le regrettez, justement ?
Ah oui, je le regrette, bien sûr. Je le regrette parce que, bon, on peut dire ce qu'on veut, mais à un moment, c'était quand même un usage démocratique très ancré. Je crois que ça n'est jamais arrivé sous la Ve République, peut-être Michel Rocard. Et encore, il me semble qu'il avait été devant le Sénat, ce qui était déjà quand même un peu plus démocratique. Donc évidemment, tout ça est un petit peu une mascarade, on a l'impression que finalement...
On vous sentait venir. S'il y avait eu un vote de confiance, qu'est-ce que vous auriez dit ?
Non, on a été élu dans l'opposition, je ne vais pas vous dire que j'allais voter pour.
Ouais, mais on a dit opposition constructive.
Soit, mais alors pour ça, il fallait aussi
ça
peut-être...
c'était au début, c'est
non,
ça ?
Non, mais il fallait peut-être tendre des perches. Regardez, Emmanuel Macron aurait très bien pu choisir un autre Premier ministre, pas forcément issu de ses rangs, pas forcément Jean-Luc Mélenchon, pour lequel nous avons fait campagne, nous, à la NUP, comme Premier ministre, mais quelqu'un qui aurait pu... convaincre des voix de la NUP jusqu'aux voix d'ensemble et peut-être laisser l'extrême droite de côté. C'est ce qui se fait dans toutes les démocraties européennes. C'est ce qui se fait en Allemagne, c'est ce qui se fait en Italie. L'extrême droite est mise à part. On cherche des coalitions du centre jusqu'à la gauche, par exemple, ou enfin de la droite jusqu'à la gauche même, parce qu'on LR est tout à fait compatible dans cet ensemble de coalitions. Ce n'est pas du tout le choix qu'a fait Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a dit « j'ai été élu, j'ai un projet, je mets la première ministre que je veux et vous vous débrouillez. Et par ailleurs, j'ai autre chose à faire, hein, je pars pour 2 ou 3 jours et quand je reviens, je veux que ce soit réglé tout ça ». C'est pas sérieux. On a été...
C'est amusant, ça. Vous mettez les LR dans la possibilité d'avoir un Premier ministre de leur rang.
Bah, en tout cas, je dis que s'il était vraiment dans cette logique de coalition, il aurait dû aller discuter de LR à la NUP. Voilà ce que je pense légitime sur le plan démocratique.
Hors RN.
Pourquoi ? Pour moi, il n'y a pas à faire rentrer l'extrême droite dans le jeu parlementaire classique.
Mais c'est quoi la différence entre l'extrême droite et l'extrême gauche ?
Mais il n'y a pas l'extrême gauche à l'Assemblée nationale.
Bah, pardon, LFI, c'est l'extrême gauche.
Mais pourtant non, l'extrême gauche, c'est...
Marine Le Pen dit la même chose de l'extrême droite. Donc
je vais essayer de vous expliquer pourquoi, selon moi, ce n'est pas la même chose.
D'accord.
Le premier député du Rassemblement national qui s'est exprimé dans cette mandature, qui était M. Gonzalez, qui a pris la parole lors d'une séance inaugurale où il présidait l'Assemblée en tant que doyen, nous a parlé de l'Algérie française, nous a parlé d'un régime qui était anti-républicain. L'Algérie française, c'était quelque chose qui ne reconnaissait pas l'égalité des droits, qui a commis des crimes de guerre. Macron lui-même avait appelé ça un crime contre l'humanité, donc ce n'est pas moi qui l'invente. Bon, ça, pour moi, c'est l'extrême droite. On le voit, ce député est bien d'extrême droite. Quand un autre député dit que l'IVG est un crime, c'est l'extrême droite. On est sur des régimes, enfin, on est sur des prises de position extrémistes. Nous, on propose la retraite à 60 ans. On propose la planification écologique. On propose 650 mesures dont j'aimerais bien savoir laquelle n'est pas républicaine. En quoi on serait de l'extrême gauche ? L'extrême gauche, c'est ceux qui veulent renverser le gouvernement par les armes pour instaurer le communisme ou que sais-je. Il n'y a personne dans la NUP qui dit ça.
Bon, alors, faisons les comptes. Les marcheurs sont 250, la NUP 151, le RN 89, les LR 62. Comment on fait ? On se parle tous. On se parle tous, alors j'ai bien compris, sauf les 89 du RN, là, cordon sanitaire.
Pour moi, oui, c'est évident. Après, le gouvernement fera ce qu'il voudra, mais pour l'instant, on n'a pas eu le sentiment qu'il allait dans ce sens.
Hier, à votre place, il y avait un LR, Laurent Marcangeli, qui disait « Moi, je voudrais qu'on examine les amendements de tout le monde, y compris ceux du RN. Ah » bah, comment est-ce que vous voulez avancer dans une assemblée à 577 en enlevant 89 députés en disant « bah ça ne compte pas ».
Non, mais les amendements sont examinés, ils ont été élus. Moi, je ne dis pas le contraire. Ils ont été élus. Simplement, de travailler politiquement avec des gens et de respecter leur élection, ça n'est pas la même chose. Ils ont été
élus. Ils ont été élus par les Français, vous venez de le dire.
Oui. Ça,
mais vous
ne
voulez
pas
respecter leur élection.
Non. Je dis, je respecte leur élection, mais en revanche, je refuse un travail politique en commun avec eux, me concernant.
Oui, mais
je
pense qu'ils ont été élus par des Français.
Oui, mais d'accord, ils font des propositions. Et comme ils ne sont que 89, a priori, elles n'ont peu de chances d'aboutir. Mais ça, c'est autre chose.
Ils sont 89, ils ne sont pas 17 ou 25.
Mais on est quand même 577 dans l'Assemblée nationale.
Enfin, quand même.
Donc, je pense qu'il y a la possibilité de bâtir des coalitions de projets, comme on dit, en dehors du Rassemblement national. Mais ça, pour ça, il faut être, pour danser le tango, il faut être deux. Donc nous, on votera ce qui est intéressant de voter pour le pouvoir d'achat des Français, pour améliorer le combat pour la justice climatique, tout ce qui va dans le bon sens. En revanche, j'attends de voir comment la majorité présidentielle va, elle, réagir à nos propositions. Et je pense qu'il faut réformer l'Assemblée nationale parce que je pense qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale française, contrairement à beaucoup de parlements en Europe, n'est pas construite pour travailler comme ça.
C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voudriez faire ?
Il faudrait mettre en place des intergroupes qui, sur chaque texte, peuvent un peu co-construire les textes. Il faudrait mettre en place des points de rencontre réguliers.
C'est-à-dire qu'on sort du carcan proposition de loi, projet de loi.
Exactement. Exactement. Et du carcan très, très frontal, majorité opposition sur une mandature entière, sans jamais pouvoir se dire que sur tel ou tel texte, s'il y a de la co-construction, peut-être que des avancées sont possibles.
C'est le pouvoir des amendements, justement.
Oui, alors...
Et de la navette parlementaire
entre le Sénat.
Aujourd'hui,
les amendements, malheureusement, sont souvent faits d'une manière que vous en déposez beaucoup pour pouvoir montrer un petit peu un geste politique. Mais en réalité, il n'y a pas de procédure avant... qui permettent de discuter entre les groupes pour savoir vraiment ce qu'on retiendra. Enfin, tout ça, la co-construction, ça ne s'improvise pas. Ça se prépare. Au Parlement européen, il y a une organisation extrêmement précise pour cela. On pourrait réformer le règlement intérieur de l'Assemblée nationale pour aller dans ce sens. Moi, en tant qu'écologiste, avec mes collègues, je pense qu'on fera des propositions qui iront dans ce sens. J'ai un gros doute sur le fait qu'Emmanuel Macron soit capable d'accepter ce genre de choses.
Alors, prenons un exemple concret. Il va y avoir sans doute le premier texte, ça va être le texte sur le pouvoir d'achat.
Oui.
Comment est-ce qu'on va se mettre d'accord là-dessus ? Est-ce qu'on attend, évidemment, la proposition du gouvernement ? Et derrière, on fait quoi ?
Bah regardez, c'est un très bon exemple. Le gouvernement nous donne effectivement... on sait qu'il y a une proposition du gouvernement qui circule.
Un texte arrive.
On sait à peu près peu ou prou ce qu'il y a dedans. Bon, très bien.
Déjà là, maintenant, vous le savez.
Oui, on voit à peu près. Donc, il y aura la prime Macron qui va être doublée. Il y aura des petites choses sur l'essence. Et puis, certaines prestations sociales qui seront un petit peu revalorisées. Mais vu l'inflation et vu finalement l'explosion des prix à tous les niveaux, c'est très en deçà. En fait, même avec ces revalorisations, les Français ne vont pas gagner d'argent. C'est ça qu'il faut comprendre. Nous, on a fait une contre-proposition complète. Complète, avec évidemment nos propositions. Hein. L'augmentation du SMIC, revenir sur une augmentation des APL vu que les loyers augmentent, prévoir l'encadrement des loyers, la baisse de la TVA sur les transports en commun, bref, un certain nombre de propositions qui étaient dans le programme de la NUP.
En tenant compte du budget de l'État, en tenant compte de la dette
En tenant compte, évidemment, on va proposer aussi des recettes. Hein. Par exemple, augmenter la TVA sur les produits de luxe à 33% pour pouvoir baisser sur les transports en commun à 5%.
Qu'est-ce que c'est pour la NUP, qu'est-ce que c'est un produit de luxe ?
Eh bien, écoutez, les produits de luxe, on va pouvoir parler.
Ça va
de
où à où ?
Alors, je n'ai pas la nomenclature parfaitement en tête, mais on peut considérer que le champagne est un produit de luxe, on peut considérer que les bijoux sont un produit plutôt de luxe. Enfin, ce type de biens. Alors évidemment, il faut regarder précisément, mais il y a une catégorie qui s'appelle produits de luxe aujourd'hui, qui est nomenclaturée ainsi. Donc on pourrait imaginer, par exemple, d'augmenter la TVA là-dessus. C'est un choix politique, mais nous assumons de proposer cela pour pouvoir, par ailleurs, baisser la TVA sur le train, sur les transports en commun. C'est écolo, ça fait du bien au porte-monnaie. Les gens en ont marre de voir leur facture d'essence augmenter. Donc c'est des choix. Le problème par rapport à ce qu'on vient de se dire juste avant, ils ont fait une proposition qui est la leur, entre guillemets. On fait une proposition qui est la nôtre. Personne ne va jamais se parler pour se rencontrer, pour savoir s'il y a des points de convergence possibles et un équilibre possible. Vous verrez, ça ne se passera pas comme ça. C'est bien là où il y a un problème. On serait en Allemagne, on serait en Italie, on serait ailleurs, ça ne se passerait pas comme ça. Les principales formations politiques seraient réunies par le gouvernement et il y aurait des discussions et véritablement sur la base du rapport de force au Parlement, des propositions sortiraient. Emmanuel Macron n'est pas prêt à accepter cela. C'est là où le bât blesse.
Je reprends votre... parce que c'est très intéressant. Ça m'a un peu étonné, mais je reprends votre exemple des produits de luxe.
Oui.
Est-ce que ce n'est pas se tirer une balle dans le pied ? Est-ce que le savoir-faire à la française, un des piliers du savoir-faire, c'est justement le luxe ? Prenez la maroquinerie, le parfum, le champagne, vous parliez justement du champagne, le vin que l'on exporte à foison.
Bien
d'ailleurs, certains se plaignent d'avoir, j'allais dire, les fonds de caisse, parce qu'effectivement, d'abord, le premier marché, c'est la Chine, ensuite, ce sont les États-Unis, etc. Est-ce que le monde entier, pardonnez-moi, Aurélien Taché, ne se moquerait pas de nous si on commençait à faire des taxes sur le luxe, qui est, l'un des trends les plus saillants de la production française ?
Alors, j'entends votre question. D'abord, moi, nous proposons d'augmenter la TVA, pas de finalement de rendre la vie plus difficile à nos entreprises pour exporter. Vous avez raison, le luxe est un savoir-faire absolument incroyable en France.
Ce sont des emplois derrière, des manufactures françaises, made in France. On en parle tous les jours de la semaine dans la France Bouge, ici à Europe 1.
Je suis d'accord. Et donc, je pense vraiment que cette taxe pourrait concerner, par exemple, le marché intérieur. Il ne s'agit certainement pas d'empêcher nos entreprises d'exporter. Mais ensuite, si nous augmentons les salaires comme nous le proposons, si nous faisons un certain nombre de mesures de redistribution des richesses, c'est simplement plus les mêmes gens qui achèteront autant de produits de luxe, mais un peu plus de gens qui en achèteront et l'industrie française ira très bien.
Elisabeth Borne, on en a parlé, effectivement. Le remaniement, vous attendez quoi de ce remaniement ?
Malheureusement, peu de choses. Je ne peux pas vous dire autre chose ce soir. Je vois bien quelle est l'attitude, encore une fois, à la fois du président de la République ou de ses lieutenants. On a entendu Aurore Berger aujourd'hui sur des ondes expliquer, la présidente du groupe Renaissance, que finalement, la NUP et le Front National, c'était la même chose, que de toute façon, elle n'irait chercher que les gens de bonne volonté qui sont dans l'arc républicain. Mais pour qui ces gens se prennent. Enfin, ils ont quand même, parce qu'ils n'ont pas donné de consigne de vote aux élections législatives, permis l'élection de 89 députés RN, parce que ça s'est quand même passé comme ça. Emmanuel Macron, en expliquant que les extrêmes, c'était la même chose, alors que bon, je ne savais pas que les Verts, les socialistes, même les Insoumis, qui sont un parti qui n'est pas du tout dans l'action violente, étaient des extrêmes à mettre sur le même plan que le Rassemblement National et son histoire.
Je ne suis pas sûr qu'ils mettaient les Verts et les socialistes au même plan que les LFI.
Il aurait pu détailler au moins alors, mais il ne l'a pas fait. Et donc, on a aujourd'hui, à travers la bouche d'une de ses principales lieutenants, ce même type de discours. Donc on voit bien que déjà, on est toujours dans l'anathème, on est toujours encore une fois dans l'arrogance, avec des gens qui pourtant n'ont pas de majorité à l'Assemblée nationale, qui se sentent autorisés à décerner des brevets de républicanisme. Tout ça est quand même assez risible, et si ça n'était pas si grave, ce serait risible. Mais moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est comment cette Assemblée va fonctionner. Ils ont quand même des responsabilités, un président de la République en fonction, un gouvernement qui est mis en place par ce dernier. C'est à eux aussi de donner un peu l'exemple, et aujourd'hui, ils ne le font pas.
En tout cas, à vous entendre, on va vraiment repartir dans une assemblée type 4e République où rien ne se faisait et le travail parlementaire était colossal et les amendements étaient les uns derrière les autres et puis les présidents du Conseil sautaient les uns derrière les autres, plutôt que d'un travail constructif dans une France qui sort tout juste du Covid, qui doit rembourser sa dette, qui repart avec un taux de chômage qui est pour l'instant... ce qu'il est, bon, mais le chômage reste quand même très très conséquent. Ouais, il y a des gens qui sont dans la précarité. Il y a une réforme des retraites qui arrive.
Aussi.
Vous voyez, il y a un moral des Français qui est au plus bas, et on a face, et vous en faites partie, pardonnez-moi, mais on a ces représentants de l'Assemblée nationale où on sent déjà, avant même que le travail parlementaire ait commencé, que ça va mal se passer.
Non, mais d'accord, mais moi, toutes les problématiques que vous venez d'évoquer, j'y suis tout aussi sensible que vous, que tous les citoyens français, que les responsables de la majorité. Simplement, nous avons des solutions différentes. Il faut entendre le message des Français. Les Français ont demandé, ont finalement réélu un président de la République un peu par défaut, parce qu'il se disait, bon, c'est moins pire que les autres, sans savoir quel était son projet. Il parle d'un projet, mais personne ne sait jamais lequel c'est. Et ils ont envoyé une assemblée plurielle. C'est leur message politique, il faut en tenir compte. Donc moi, je suis d'accord pour composer... si les autres veulent composer et que, encore une fois, nous n'inversons pas la charge de la preuve. Moi, je voterai tout ce qui ira dans le sens de l'amélioration de la vie des Français. Il n'en est pas question autrement. Mais j'attends que la majorité présidentielle sache faire preuve, enfin la majorité présidentielle non, parce qu'ils n'ont même plus de majorité, que le groupe Ensemble, la coalition Ensemble, sache faire preuve aussi d'écoute, sache faire preuve finalement de travail en commun.
On parlait tout à l'heure de ce cordon sanitaire que vraiment vous mettez sur le RN. Pourtant, Marine Le Pen, elle a vachement mis le curseur sur le pouvoir d'achat, le problème, justement, des fins de mois. Ça a été très, très saillant dans sa campagne. Est-ce qu'il n'y a pas un terrain d'entente, même si ça serait assez inédit, entre la NUP et le RN sur ce thème-là, puisque ça sera d'ailleurs le premier texte à voter?
Écoutez, moi, si les députés RN votent les textes pour le pouvoir d'achat des Français...
Si les députés RN arrivent sans vous parler de l'Algérie française ou je ne sais pas quoi...
Oui. Voilà. L'Algérie française, qui d'ailleurs était plus, à mon avis, à l'origine de la chute de la 4e République que le régime parlementaire. Je ne vous ai pas répondu sur la question d'avant, mais bon.
Vous avez deux heures pour composer, vous reviendrez dans Panorama, ça sera une excellente idée de débat,
si le Rassemblement national vote les mesures pour le pouvoir d'achat, tant mieux. Je vais pas, voilà, si ça fait des voix en plus pour que les lois soient adoptées sur le pouvoir d'achat.
Vous voyez qu'il n'y a pas de cordon sanitaire, finalement.
Je ne vais pas m'y fermer. Non, mais ça, c'est leur responsabilité de député. J'imagine que quand ils vont voir des mesures.
Mais c'est peut-être ça que les Français veulent entendre aussi.
Oui, non, mais quand ils vont voir des mesures sur le pouvoir d'achat, s'il y en a, j'espère, suffisamment, proposées par la majorité, enfin, par le gouvernement, je pense que s'ils les votent, tant mieux pour eux, tant mieux pour les Français. Ce n'est pas mon problème. Moi, ce que je veux savoir, c'est si. Pour trouver des majorités sur les sujets importants pour les Français, dont vous venez d'évoquer par exemple les questions de justice sociale et autres, est-ce que là, le groupe Ensemble, le gouvernement, sera capable de travailler avec d'autres groupes, et notamment les groupes qui ont été élus comme les premières forces d'opposition, à savoir la NUP? Et j'ai un doute.
Dernière question, Aurélien Taché. Quel est le texte dans cette mandature qui arrive? Quel est le texte que vous craignez le plus? C'est celui qui va poser le plus de problèmes. Est-ce que c'est la réforme des retraites? Est-ce que c'est un autre texte?
Alors, il est difficile de vous répondre précisément parce que malheureusement, nous ne savons pas exactement quels seront les textes que Emmanuel Macron proposera. Il est évident que la réforme des retraites sera un texte très difficile s'il reste sur cette idée de reculer l'âge légal de départ de manière aussi importante que ce qu'il a annoncé. Enfin,
donc jusqu'à 65 ou voilà, 64 ans.
Même de toute façon, s'il propose de le reculer, nous ne voterons pas parce que nous sommes même pour l'abaisser. Le minima serait le statu quo à 62 ans, mais donc on voit bien qu'on ne va pas dans cette direction. Mais je vais vous dire quelque chose, mon inquiétude la plus importante est encore ailleurs. J'ai été plutôt agréablement surpris de la nomination de Pape Ndiaye comme ministre de l'Éducation nationale, vous pouvez vous en douter. Néanmoins, quand j'ai entendu ce que prévoyait Emmanuel Macron et ce qui se profile, ce qui semble se profiler sur l'école, avec des professeurs qui seront payés en fonction des notes de leurs élèves, avec une université qui risque de devenir payante, eh bien, je peux vous dire que le député qui est devant vous aujourd'hui, qui a dû reprendre ses études à 19 ans avec une capacité en droit parce qu'il n'avait pas le bac et qui a pu ensuite faire un certain parcours dans la République, il est très inquiet parce qu'il sait qu'avec ces réformes-là, il ne pourrait plus le refaire.
Vous êtes inquiet et vous êtes triste pour Pape Ndiaye qui aura une partition déjà toute écrite.
J'ai l'impression qu'il est un peu otage de ce gouvernement. On a connu ça avec Nicolas Hulot sur l'écologie. J'ai l'impression que Pape Ndiaye est dans le même cas que lui sur l'éducation.
Merci beaucoup Aurélien Taché d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1. Dans un instant, ça fait débat avec nos débatteurs du soir, Patrick Karam et Marie-Virginie Klein. À tout de suite.
Europe Soir Weekend.
Pierre de Villeneuve.
Et jusqu'à 19h, ça fait débat avec Marie-Virginie Klein. Bonsoir.
Bonsoir.
Conseillère en communication, présidente, fondatrice d'Iconic Conseil. Bonsoir à Patrick Karam.
Bonsoir.
Vice-président de la région Île-de-France. On en parle, ça fait couler de l'encre. Éric Coquerel a pris la plume lui-même ce matin dans le journal du dimanche. On en est au stade de certaines déclarations, de ce qu'on appelle communément une rumeur, pas de plainte, et pourtant tout le monde en parle, Patrick Karam, de cette affaire Coquerel.
Ben, tout le monde en parle parce qu'il faut se dire aussi qu'elle est fille à jouer à ce jeu-là. Vous avez eu d'autres situations où elle est fille à flinguer, avant même que des plaintes soient déposées contre l'actuel ministre Abad, les filles avaient déjà, et Rousseau avait déjà dit qu'il ferait le pied de grue. Pour demander sa démission. Alors oui, effectivement, c'est insupportable. Ce règne de la rumeur, ce règne des réseaux sociaux, les réseaux sociaux peuvent avoir du bon, mais là, ce règne-là où on condamne, on décapite avant même de savoir les choses, avant même qu'il y ait une plainte avérée, ça pose un problème. Deuxième problème quand même, c'est ce qu'il peut dire lui-même. Il dit « c'est un complot ». Et c'est un complot de qui ? De l'RM. Or, qui balance ? Eh bien, des gens qui sont proches de lui. Qui la première a tiré ? Rokhaya Diallo, avec qui il a manifesté avec le CCIF et crié des slogans absolument inacceptables. Ce sont ses copains politiques qui balancent. Ce sont des militants qu'il a rencontrés et à qui il a arpenté le pavé. Ce n'est certainement pas un complot de qui que ce soit. Troisième, et par contre, respecter sa présomption d'innocence, il faut le faire. Là, je trouve que c'est quand même inacceptable. Dernier point quand même. Je considère qu'à partir du moment où quelqu'un balance une rumeur, il faut l'attaquer pour dénonciation calomnieuse. Je crois que Rokhaya Diallo prend une responsabilité. C'est une femme de médias. Elle sait très bien ce qu'elle fait. Et lorsqu'elle lance cette rumeur, qui n'est pas pour l'instant étayée, on parle de comportements inappropriés qui ne sont ni des crimes, ni des délits. Donc pénalement, qui n'ont pas de traduction juridique. À partir de ce moment-là où on porte atteinte à la réputation de quelqu'un, il y a peut-être pour lui à s'interroger sur ce qu'il doit faire. Le fait de ne rien dire, de ne rien faire dessus, moi, m'interroge.
Marie-Virginie Klein, l'œil de la communicante là-dessus, avec Éric Coquerel qui a, voilà, il s'est décidé finalement à prendre la plume lui-même ce matin dans le journal du dimanche, vous avez lu.
Oui. Et il a bien fait.
Il a bien fait.
Oui, il a bien fait de le faire parce que en fait, il répond de façon indirecte à une question qui est plus large. C'est que jusqu'à 2018, jusqu'à un temps très récent, il y a eu toujours une forme de domination masculine inconsciente. Et donc là, il le dit clairement. Il dit moi-même, je l'ai pratiqué. C'était inconscient. C'était pas forcément voulu. J'ai appris. Je progresse. Et si je peux être un tout petit peu provocatrice sur cette question-là, c'est que si aujourd'hui on mettait de côté tous les hommes qui, dans les milieux de pouvoir, ça concerne même pas que le politique, ça concerne aussi l'entreprise, si on mettait de côté tous les hommes,
ça concerne les journalistes,
qui, à un
ça
moment,
concerne vraiment
tous les milieux
secteurs,
de pouvoir,
la culture, enfin
pas
voilà,
seulement,
on peut y aller là,
les,
si vous voulez
également
dérouler
les grandes entreprises.
Mais bien sûr. Exact.
Si on mettait de côté tous les hommes qui, à un moment ou à un autre, ont de façon consciente ou inconsciente, j'insiste sur l'inconscient, exercé une forme de domination masculine parce qu'ils étaient des hommes de pouvoir, bah aujourd'hui, on n'aurait pas énormément d'hommes qui seraient en mesure et en capacité de les exercer. Donc, moi, je pense que c'est un sujet qui est très fort et qui restera encore très fort pendant quelques années parce qu'on n'a pas fait ce réglage, mais que 2018, MeToo, a vraiment constitué une prise de conscience et qu'à partir de maintenant, il y a des comportements qui étaient pas possibles, mais qui étaient pratiquées avant, qui ne sont plus du tout possibles aujourd'hui.
Je fais cette tribune, dit Éric Coquerel, pour affirmer que je n'ai jamais exercé une violence ou une contrainte physique ou psychique pour obtenir un rapport, ce qui caractérise la porte d'entrée dans un comportement délictuel dans le domaine des violences sexistes et sexuelles. Voilà, il décrit, j'allais dire juridiquement, la teneur de toute cette affaire Coquerel. Tandis que quand vous parlez effectivement des comportements qu'il a pu avoir par le passé, c'est pas tout à fait clair, puisqu'il dit « L'accusation a varié dans le temps, passant de drague lourde à des faits de harcèlement sexuel, voire d'agression et désormais comportement inapproprié. » C'est-à-dire qu'il ne dit pas lui-même « J'ai été un peu lourdingue dans mes blagues par le passé sur les femmes. »
Non, il a dit, alors je n'ai pas la citation exacte, mais il a dit « j'ai peut-être inconsciemment profité de ma situation de pouvoir pour exercer une forme de domination. » Il ne parle pas... Enfin, voilà, moi, c'était ce morceau-là de la phrase que je retenais. Et je trouve qu'avoir un peu de transparence, d'humilité et sur ce sujet, c'est plutôt bien joué de sa part.
Patrick Aram.
Ouais, deux petites remarques. La première, c'est que d'abord, MeToo est extrêmement important. Extrêmement important, parce que ça a libéré la parole. Est-ce que, par contre, on a pris conscience dans notre système judiciaire de cette importance-là? Moi, je ne le crois pas du tout. Regardez ce qui s'est passé sur cette affaire de chauffeur de taxi. C'est un récidiviste. Il a d'abord commencé par violer une mineure. Il n'a pas fait de tôle. Il a eu d'autres comportements délictueux, toujours pas de tôle. Et là, plusieurs femmes, dont 9 qui n'ont pas déposé plainte, et plusieurs femmes violées, violences sexuelles reconnues, il reconnaît les faits, on le juge 6 ans après, et quoi? Sa peine est aménagée, il ne fera pas de tôle. Vous rendez compte quel est le message que l'on donne? On donne un message d'impunité, et c'est tout le sujet. Il y a à peu près 94 000 cas de viol déclarés par des femmes chaque année. 17% déposent plainte. Et en 2018, on prend l'année 2018, il y a une étude sur l'année 2018. Seuls 1,3% de ces plaintes ont donné lieu à des condamnations. C'est une impunité.
Là, vous ouvrez quand même la porte du suivi des condamnations, du suivi des peines.
Je vous le dis, voilà. Pour qu'une femme aille déposer plainte, vous savez ce que c'est? Quelles épreuves on subit quand on va déposer plainte? Vous êtes écouté plusieurs fois, vous êtes traqué, on vous met devant un tribunal, on inverse, c'est comme si on inversait la présomption, vous vous retrouvez à devoir vous justifier. Et ça est devant des caméras maintenant. Ça arrive une fois, deux fois, trois fois. C'est une violence. Et pendant ces 6 années, qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, prenons le cas de ces jeunes filles qui ont eu le courage de lever l'omerta. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, vous souffrez. Et aujourd'hui, elles se retrouvent en situation d'échec. Ça ne donne pas envie aux femmes de déposer plainte. Donc, je le dis, il y a la question de la suite pénale. Dès lors qu'on est reconnu coupable de viol, il faut faire de la tôle.
Ça sera peut-être
surtout
justement,
quand on est en situation de
récidive. Ça sera peut-être un des textes qui seront abordés pendant cette mandature. Venant justement à cette grande mandature, cette nouvelle Assemblée nationale qui, rappelons-le, est sans majorité absolue, avec un discours de politique générale qui est attendu mercredi. Discours de politique générale sans le vote de confiance. Et ça, c'est une chose sur laquelle on assiste, Marie-Virginie Klein.
Oui, mais elle n'avait pas le choix. C'est-à-dire que, quelle que soit son attitude, de toute façon, ça lui aurait été reproché. C'est-à-dire qu'elle dit « je fais le vote de confiance ». Bon, si elle n'a pas le vote de confiance, qui est quand même le plus probable, c'est quand même, la fin avant même d'avoir commencé de son mandat. Si elle a une majorité, même très très courte, d'abord, ça serait presque, ça serait extraordinaire, ça serait presque miraculeux là, en l'état des lieux. Mais dans tous les cas, on lui a dit oui, vous avez eu un vote de confiance très très court, donc ça ne marcherait pas. Et là, le seul risque qu'elle prend en ne prenant pas le risque de confiance. Enfin, il y en a deux. Il y a un risque d'image. Elle a un peu échappé à ça, alors que c'est quand même ça l'aurait statutairement installé. Mais ce qu'elle risque d'avoir, c'est la motion de censure, la demande de motion de censure de la part de la NUPES. Mais cette motion de censure n'a absolument aucune chance d'aboutir, puisque ça serait les seuls à la voter. Donc ça n'aboutirait pas. Donc là, elle prend juste un risque, on va dire temporaire, de se le faire reprocher parce que elle n'a pas joué le jeu du vote de confiance. Bon. Il y en a d'autres qui l'ont fait avant elle. Enfin, il y en a un, Rocard en 88. Oui. On l'a oublié quelque temps après.
Patrick Caram, est-ce que ce vote de confiance devrait être obligatoire?
Ben, en tout cas, aujourd'hui, on s'aperçoit que le quinquennat va être compliqué. Enfin, si ça va au bout et s'il n'y a pas de dissolution de l'Assemblée nationale, c'est sacrément compliqué pour le gouvernement. Parce que là, pour le coup, on fait de la subtilité. On vient, pas de vote de confiance, et j'ai entendu Prisca Thévenot, l'excellente Prisca Thévenot, nous expliquer que son
élection...
Vous
n'arrivez toujours pas à prononcer son nom, c'est quand même
Thévenot,
extraordinaire.
Si, si, ben,
depuis le temps que vous la connaissez.
Non, mais ben, je vous le dis, elle explique comme ça, tout sereine, que le fait qu'elle ait été élue dans une circonscription où elle n'avait aucune chance d'être battue, et en plus elle a été élue, mais vraiment un chouïa, contre un gamin de 20 ans, pardon, à 60 ans je peux dire gamin, bien ça équivaut à un vote de confiance. Non, à un Premier ministre on demande d'être chef de la majorité. Et dès lors que vous n'avez pas gagné, et parce que c'est le Premier ministre qui est le chef de la majorité, c'est le Premier ministre qui aurait dû emmener à l'élection toutes ses troupes. Ses troupes ont perdu, voilà. Il n'y a qu'une majorité relative, on aurait pu estimer qu'il y avait une perte de vote de confiance. Ils décident du contraire, moi je veux bien tout ce qu'on veut. C'est clair que le coup de la motion de censure, ils vont se gargariser en disant ben, « vous voyez, la motion de censure n'a pas prospéré, on me fait confiance ». Bon, ça, je vais vous dire, ça va être ce petit jeu pendant tout le quinquennat.
Est-ce qu'il n'y a pas trop de brèches comme ça finalement dans le dispositif? Est-ce qu'on ne devrait pas changer un peu les choses, simplifier d'ailleurs? Il y avait un candidat à la présidentielle qui n'a pas fait long feu, c'était M. Koenig, qui est sur son cheval d'ailleurs, qui a fait le Tour de France, et qui proposait justement de simplifier. Est-ce qu'on ne devrait pas faire un vote de confiance obligatoire, puis ensuite effectivement... essayer de simplifier les choses en ce qui concerne la motion de censure. Enfin, on a l'impression que dans une France, encore une fois, on en parlait avec Aurélien Taché à l'instant, enfin, vous vous rendez compte, les Français sortent du Covid, ils ont encore les stigmates de certains indépendants qui ont fermé, qui ont mis la clé sous la porte. On arrive avec une dette colossale qu'il va devoir rembourser. On arrive avec un Covid qui reprend, avec une inflation de 5,8, peut-être de 7 à la fin de l'année. Enfin, pardonnez-moi, on se retrouve, les Français, qu'est-ce qu'on leur sert sur un plateau? On leur sert une assemblée qui a quand même beaucoup de mal à fonctionner alors que le travail parlementaire n'a pas encore commencé. Une première ministre qui vient d'avoir 2-3 consignes, j'imagine, du chef de l'État qui revient de plusieurs sommets parce qu'il fallait quand même faire le boulot de la PFUE. Pardonnez-moi, mais ça fait beaucoup là, non? Ouais, ou je suis le seul à penser ça?
Non, je pense
Marie-Virginie
que... je pense que vraiment vous
j'ai l'impression
êtes
de me prendre un mur là.
si on regarde un peu ce qui se passe sur les réseaux et puis dans la presse, on peut bien imaginer que vous n'êtes pas le seul. Non, je pense que là, Emmanuel Macron ne va pas avoir le choix que de donner un nouveau coup d'accélérateur à son quinquennat. Je veux dire, ça fait 2 mois et demi qu'il est élu. En 2 mois et demi, je ne vais pas redire ce que vous avez décrit, mais voilà à peu près ce qui s'est passé, donc pas grand-chose. Donc là, il n'a pas le choix que de se dire « je dois montrer aux Français, un, que je les ai écoutés, donc ne pas se rester embourbé dans des débats, votes de confiance, motion de censure dont tout le monde se fiche. » Donc tout le monde se fiche plus souvent. Et donc, il doit, pendant la semaine prochaine et avant l'été, puisqu'il va quand même y avoir la coupure de l'été où les gens vont un petit peu moins se sentir concernés, il faut qu'il donne un signal extrêmement fort.
Mais c'est quoi ce signal?
Le sujet, c'est « va-t-il y arriver ?» Et bien, le signal extrêmement fort, pour moi, il y en a 2 possibles. Il y a un remaniement, mais important, avec des figures fortes. Il va avoir personne.
Vous savez que ça va être à la marge.
Bien sûr. Bah, alors, je le sais. J'attends quand même lundi. On peut toujours avoir des surprises. D'ailleurs, je ne sais pas si
c'est vrai qu'on peut avoir
lundi.
Des surprises. Ça, je vous donne crédit là-dessus.
Il peut avoir une ou deux figures fortes qui vont envoyer le signal aux Français de « je vous ai compris ». Alors après, peut-être qu'il n'y arrivera pas justement.
Attention avec le « je vous ai compris ». C'est quand même une déclaration qui est restée dans l'histoire.
Je vous ai compris, mais je suis conscient. Voilà. Et puis, le deuxième signal, c'est d'essayer d'acter du fait que le pouvoir, il est passé de l'Élysée à l'Assemblée nationale, tout aussi complexe qu'elle soit devenue aujourd'hui avec ses jeux politiques, mais de jouer le jeu. Et donc, de jouer le jeu du président non-jupitérien, humble, qui écoute et qui se prête au jeu du débat. Ça, on ne l'a pas encore vu faire.
Va falloir qu'il se force. Parce que pendant un quinquennat, qu'est-ce qui nous a servi pendant un quinquennat? Eh bien, un pouvoir qui était totalement vertical. Je peux vous dire que nous, collectivités territoriales, on l'a subi, ce pouvoir vertical. Hein. On n'était pas écoutés, on nous imposait des mesures, on les découvrait. Mais l'Assemblée nationale, c'était une assemblée croupion. Le Sénat essayait de jouer son rôle d'opposant, essayait d'infléchir des textes. Elle n'y arrivait pas. Le dernier mot, c'est toujours à l'Assemblée nationale. On a vu que Emmanuel Macron, c'est pas dans sa culture. Il a toujours joué la gagne. pour la première fois, il se trouve en situation d'échec relatif. Est-ce qu'il va pouvoir changer son logiciel personnel? C'est le vrai sujet. Aujourd'hui, je constate juste une chose, vous l'avez bien décrit, la France brûle aujourd'hui. Emmanuel Macron, eh bien, il regarde ailleurs. Va falloir de toutes les façons qu'il change sa façon de faire, parce qu'il faudra trouver un consensus.
Décidément, avec les références historiques, vous êtes très fort tous les deux aujourd'hui.
On ne trouve pas un consensus en faisant son premier discours, en prenant témoin les Français, en disant bon bah écoutez là les petits là, ok vous les électeurs ont joué, maintenant vous allez me faire part de vos copies et on va voir ce qu'on fait. Ça c'est pas sérieux, c'est quand même à lui de tendre la main aux partis politiques. J'attends qu'Emmanuel Macron se rende compte de la situation extrêmement complexe dans laquelle la France est plongée. Juste un dernier mot, aucun parlementaire aujourd'hui, aucun député n'a envie de repartir à l'élection. Donc, de toutes les façons, ça veut dire une dissolution. Veut dire qu'ils vont devoir se débrouiller pour trouver un consensus. Mais il faut que le président de la République y mette du sien.
Marie-Virginie Klein, pour éviter la dissolution, on va marcher sur des œufs. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire des arrangements.
C'est
parce que les Français veulent forcément des arrangements.
Moi, le paradoxe, c'est qu'il veut un gouvernement d'action, et donc c'est un gouvernement d'action. Je reprends ma casquette de communicante où je regarde un peu les mots. Le gouvernement d'action qui va être annoncé peut-être la semaine prochaine. Et en même temps, on a tous peur que ce quinquennat, en fait, ne serve à rien, que ça soit un quinquennat pour rien, dans lequel aucune décision n'est prise, etc. Donc, la seule façon de s'en sortir, ça sera la concertation, l'écoute, et la prise en compte des nouveaux partis aussi, parce qu'il y a quand même le Rassemblement National qui est un nouveau parti et qui va avoir maintenant une voix à écouter. Il va devoir prendre en compte et en considération ces gens-là qui maintenant sont députés notamment.
Ça, c'est intéressant et on en parlait tout à l'heure avec Aurélien Taché et hier soir, ici même avec Laurent Marcangeli, qui est député LR. Et effectivement, il y a député Horizon, pardon, qui disait, moi, je vais examiner les amendements du RN. Ils sont 89. Les Français les ont élus. Il faut regarder. C'était pas la même tonalité chez Aurélien Taché il y a 10 minutes, qui disait il y a quand même un cordon sanitaire avec le RN. Qu'est-ce qu'on fait avec le RN, Patrick Karam?
Le cordon sanitaire, répétez. Je crois qu'il y a un truc que j'ai pas compris. Vous croyez qu'il y a encore un cordon sanitaire?
Je vous pose la question.
D'abord, vous n'avez pas de vice-président RN à l'Assemblée nationale. S'il y avait un élu avec des voix de tout, notamment des LREM. S'il n'y avait
donc,
pas...
Renaissance et Ensemble.
Renaissance, évidemment, etc. Expliquez-moi où est le cordon sanitaire. Macron l'a utilisé pour sa propre élection. Après, il l'a oublié en route. La preuve, c'est qu'un certain nombre...
Mais est-ce qu'il est nécessaire ou pas, ce cordon sanitaire?
La preuve, c'est qu'un certain nombre de parlementaires RN a été élu parce qu'il n'y a pas eu de mot d'ordre quand ils étaient confrontés à un candidat de NUPES. Donc, arrêtez de nous raconter ce petit truc.
Ça n'existe pas.
Mais pour moi, ça n'existe plus. Macron vit à... Alors, évidemment, la présidente du RN est subtile. Et d'ailleurs, le carton qu'elle a fait en Outre-mer, il faut arrêter de penser que c'est un parti raciste. Elle ne l'est pas. Il peut y avoir des gens racistes en son sein, comme il y en a dans d'autres partis. Mais elle a fait un carton en Outre-mer. Elle a fait un carton à Mayotte. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'elle fait un carton à Mayotte. Elle a travaillé pour se dédiaboliser pendant toutes ces dernières
années.
Elle a réussi, oui. Là, ce qu'elle essaie de faire, c'est de s'institutionnaliser. Elle pourrait accepter des postes au gouvernement. Il ne faut pas qu'on se raconte du pipeau. Elle veut être responsable.
Mais on ne se raconte jamais de pipeau, Patrick Karam.
Mais c'est les autres qui essaient de raconter cette petite histoire. Et le vrai sujet va être, pour les LR, quel positionnement avoir. Parce que là, il faut qu'ils se rendent compte que le RN est en train de chasser sur leur terre et qu'ils ne sont plus tout seuls au monde. Et qu'à un moment donné, il y a peut-être une prise de conscience à avoir si ce parti, sous un nom ou sous une forme ou une autre, et un nom ou un autre, veut continuer à exister. Marine Le Pen, aujourd'hui, est partie à la conquête du pouvoir. Elle demande à ses élus d'être irréprochables, du point de vue vestimentaire, comme du point de vue de la prise de parole.
Marie-Virginie Klein, sur Marine Le Pen.
il y a deux types de cordons sanitaires, je dirais. Il y a le cordon sanitaire de l'image, donc nommer, par exemple, au gouvernement quelqu'un qui viendrait du Rassemblement national. Ça, à mon avis, ça serait c'est impossible. Enfin, il franchirait jamais le pas. Mais après, il y a le cordon sanitaire de l'écoute. Et c'est-à-dire qu'avec 89 députés, des députés à la vice-présidente de l'Assemblée nationale, et quand même, je veux dire, c'est le deuxième parti de France, si je ne me trompe pas en nombre de voix.
89 députés élus par les Français. Élus, faut-il le rappeler ?
Il ne peut pas y avoir de cordon sanitaire de l'écoute. Il ne peut pas faire autrement que dans le jeu politicien qui s'annonce à l'Assemblée nationale, de les écouter et de les considérer comme des interlocuteurs réels. Alors après, voilà, il y a le symbole, et en symbole, il ne franchira pas une certaine ligne, et je pense qu'on est très loin d'avoir des ministres venus de ce parti, mais dans la réalité du travail, il ne va pas pouvoir faire autrement.
Je suis d'accord avec vous. Ce symbole-là, il veut le maintenir. Mais dans la réalité, j'ai donné deux exemples. Ce symbole, il n'existe plus. Dans le quotidien de fonctionnement, il n'existe plus. Le positionnement du parti macroniste Renaissance a permis l'élection d'un certain nombre de parlementaires et permet d'accéder au plus haut sommet à l'Assemblée nationale. Le vrai enjeu pour Macron aujourd'hui et pour le gouvernement d'Elisabeth Borne, ça va être de travailler les textes qui vont être moins nombreux à l'Assemblée nationale, moins polémique, mais il faudra les travailler par avance. Ce que je veux dire, c'est que la concertation, c'est pas je prends un texte, je vous le balance, vous discutez dessus, on voit ce qu'on fait. Pour lui, s'il veut vraiment réussir son pari, c'est de travailler les textes en amont, voire avant que le texte n'arrive sur le bureau de l'Assemblée nationale, avant même que ça soit soumis pour avis et ne subissent tout le processus administratif, y compris le passage devant le Conseil d'État, ben il faut commencer à consulter les partis politiques. Sinon, il n'y arrivera pas et il finira par hystériser tout le monde. Si son truc, c'est un coup je vais à gauche et je vais travailler avec les députés de gauche, un coup à droite et je vais travailler avec ceux de la droite et d'extrême droite, ça ne marchera pas à terme.
C'est ce qu'il fera.
Mais il
essaiera, elle a raison, Marie-Virginie.
Ben il se prendra le mur. En pleine face.
Quelle couleur le mur ?
Ah ben, peu importe, on verra de quelle couleur,
de
il, va où il va tomber. Mais en tout cas, il risque de trébucher là-dessus.
Ça, c'est une private joke Europe 1. J'espère que Jean-Pierre nous écoute. Il y a un sujet qui vous tient à cœur, Patrick Karam, c'est les JO. Ah. Parce que là, vous voyez la catastrophe arriver.
Mais vous savez, moi, je veux vous dire, et Guy Dru l'a bien résumé, et il le dit, je le dis aussi, je porte une voix un peu dissonante quand je participe au conseil d'administration. On a une équipe, et je veux le dire à Estanguet, arrêtez de jouer perso, arrêtez de vous croire investi d'un truc tout puissant. Les collectivités qui financent et qui représentent les gens ont le droit de pouvoir décider. La première décision qui m'avait choqué, vous savez, déjà, on a des textes qui arrivent. Il n'y a eu aucune concertation, aucune décision. Alors, honnêtement, lui, c'est Jupiter en puissance 1000, hein, parce qu'il ne concerte pas, il décide, et puis après, il vous le dit. C'est par exemple les disciplines additionnelles. Il a décidé, tout seul, dans son coin, sans jamais nous consulter, de retirer le karaté. Pardon, le karaté médaillé d'or aux Jeux Olympiques de Tokyo. On aurait pu avoir 3 médailles. Pourquoi il le fait ? Pourquoi au moins il n'engage pas un débat avec nous ? Pourquoi il nous
vous
dit bon,
vous
ben, c'est
karaté,
fait.
Je crois, non ?
C'est fait, pardon.
Vous en faites, vous, du karaté ?
Oui, j'en ai fait. Oui, mais ce n'est pas une raison pour ne pas le prendre.
Non, mais c'est pour ça que vous en parlez. Parce que c'est votre marotte.
Non, parce que c'est quand même un vrai sujet. Le karaté était discipline additionnelle à Tokyo. Et pourquoi ? Parce que le Japon s'est dit, nous, on veut gagner des médailles. Donc, on va mettre des disciplines additionnelles qui nous permettront de gagner ces médailles. La France veut gagner des médailles, ne le fait pas. Bon, il y a d'abord cette espèce de folie qui consiste à faire seul. Deuxièmement, à ne pas écouter les autres sur toute une série de décisions. Vous voyez des décisions arrivent au conseil d'administration. Vous n'avez jamais travaillé dessus en amont. Troisième élément, la sécurité. Vous savez,
mais vous faites référence à la sécurité au Stade de France.
Mais, oui, mais je fais surtout référence. Oui, il y aura un problème de sécurité générale. Mais il y aura un vrai sujet lié à la sécurité de la cérémonie d'ouverture. On va faire beau, grand, fort, ok. Sur les JO, sur la cérémonie d'ouverture, vous savez c'est quoi ? Eh bien, c'est 12 km de quai à surveiller. On vous dit 600 000 personnes. La mairie de Paris tape sur 1 million de personnes. Comment vous contrôlez tout ça ? Comment vous faites en sorte, parce que vous n'avez pas assez de sécurité privée. Vous avez baissé le nombre d'heures parce que vous voulez 22 000 cadres de sécurité privée pour fouiller les gens et
donc aider vous pensez les forces de l'ordre. Les gendarmes et les policiers, on n'en a pas assez ?
Mais on n'en a pas, tout le monde le sait. Et les 22 000 sont insuffisants, mais on ne les a même pas. Et on va leur donner une petite formation, 105 heures, au lieu des 175 heures que n'importe quel agent de sécurité a. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on est très loin du compte. Je dis à Estanguet, il est temps de tenir compte des collectivités. Jouez pas cavalier seul. Guy Dru vous le dit, nous vous le disons, on vous aime beaucoup, mais à un moment donné, prenez conscience que c'est un sujet qui concerne la France et pas un petit groupe d'hommes.
Marie-Virginie, après cette tirade...
C'est un peu déprimant parce que la seule chose qui peut être potentiellement positive lors du prochain quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est justement ces JO. Et si même ces JO ne sont pas réussis, ça laisse quand même très 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 peu de sources d'espoir et de perspectives. Après, je me permets de prendre aussi ma casquette de communicante. Les JO, c'est le bébé de qui ? C'est celui d'Emmanuel Macron et d'Anne Hidalgo. Donc, ça ne serait pas étonnant que tous les autres partis prennent ce sujet-là
pour essayer de tirer à boulet rouge.
La dernière chose, c'est que sur le budget, il n'existe pas, je crois, les JO ont toujours largement dépassé le budget qui avait été donné. L'exemple des JO de Tokyo. Tokyo, au départ, le budget donné, c'était 7,8 milliards. Bon. Le budget sur lequel ils ont atterri, c'était 28 milliards.
Qu'on avait déjà les équipements, parce que l'île de France a pris à son compte, par exemple, le stade nautique olympique, on l'a quasiment financé tout seul. Ce que je veux vous dire, c'est que nous sommes le premier financeur des JO avant la mairie de Paris, derrière l'État, mais premier financeur en termes de collectivité territoriale. Voyez, donc ça mérite quand même un peu de considération. On ne peut pas nous dire « faites le chèque et fermez-la ». Non, ça, c'est pas possible. Et à un moment donné, quand vous êtes autour de la table, on prend en compte ce que vous dites. Sinon, il ne fallait pas nous demander de financer autant, de nous investir autant. Et je rappelle quand même que la région a d'autres responsabilités, notamment en termes de transport. Je rappelle aussi que la région, en termes de formation des agents de sécurité, on va lui dire qu'il faut les former, etc., etc. Donc, on ne peut pas dire aux gens « financez et fermez-la ». Ça, c'est pas possible.
C'était le coup de gueule de Patrick Caram, mais c'est pour ça qu'on l'aime aussi. Merci beaucoup, Patrick Caram, d'avoir été avec nous ce soir sur Europe 1. Merci beaucoup à vous, Marie.
Merci.
Virginie Klein, fondatrice d'Iconic Conseil, 19h dans deux minutes. On partira à 19h15 du côté de Gergovie. Toute l'histoire sur un plateau. Le musée archéologique de la bataille propose une exposition qui vient de commencer de César à Gergovie. C'est passionnant. Et puis à 19h40, bien sûr, le Club Tour avec Axel May. A tout de suite pour le journal de 19h.
Europe Soir. Pierre de Villeneuve vous informe sur Europe 1.
Gergovie, c'était il y a longtemps et ça sera juste après le journal de Sophie Tussaud. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
19h sur Europe 1.
Au lendemain d'un record de chaleur en Italie, un énorme bloc de glace décroche d'un glacier dans les Alpes italiennes. Plusieurs personnes ont été emportées, il y a des morts, d'importants moyens ont été dépêchés.
Éric Coquerel, mis en cause pour son comportement envers les femmes, le président de la commission des finances de l'Assemblée se défend. Une ancienne figure des gilets effectue un signalement au comité de suivi des violences sexuelles de LFI.
Dans 8 jours, un nouveau texte de loi pour pérenniser les mesures de freinage de l'épidémie de Covid. En attendant, face à la résurgence des cas, les restaurateurs s'inquiètent et craignent de nouvelles restrictions.
La troisième étape de la grande boucle est la dernière au Danemark. Le maillot jaune est toujours sur les épaules du Belge Van Aert. Le peloton va à présent rentrer en France. La tendance météo, Valérie Darmon.
Beau temps au nord, sous une chaleur de saison, très agréable. Le risque orageux sur les reliefs, toujours. Et très chaud dans le sud-est, avec des pointes à 40.
Météo complète en fin de journal. Et d'abord donc ce drame, cet après-midi en Italie, un glacier des Alpes du nord du pays dans la région de Bolzano s'est effondré.
Une avalanche de glace et de roches, le bilan est déjà lourd et encore provisoire. 6 personnes sont décédées, 10 autres blessées. Antonino Gallofaro, vous êtes notre correspondant en Italie. Les recherches sont en cours pour tenter de retrouver d'éventuelles autres victimes.
Oui, les secours sont sur place. 5 hélicoptères ont été déployés sur la Marmolada. On est à environ 3000 mètres d'altitude dans les Dolomites, autour de l'un des plus hauts sommets de la région, où les recherches sont compliquées, comme l'a expliqué aux télévisions italiennes Walter Milan, le porte-parole du secours alpin.
La masse de glace qui s'est détachée est vraiment imposante. Elle a donc poursuivi sa route sur des centaines de mètres.
Il est difficile de savoir combien de personnes ont été éventuellement emportées. Il faudra être très attentif dans la mise en sécurité de la zone.
Le bilan provisoire confirmé par le secours alpin est donc de 6 victimes et 8 blessés. Le bloc de glace qui s'est effondré a emporté la route que suivent les alpinistes qui veulent arriver au sommet du glacier, là-haut où hier des températures records ont été enregistrées, 10 degrés. Cette chaleur inhabituelle pourrait être l'une des causes du drame.
Antonino Gallofaro, correspondant d'Europe 1 en Italie. Cette information qui vient de nous parvenir, une fusillade ce soir dans un grand centre commercial de Copenhague au Danemark. Plusieurs victimes sont à déplorer selon la police. Aucun bilan n'est disponible, pas d'information non plus sur les circonstances des coups de feu. Les forces de l'ordre sont donc sur place et demandent à la population de ne pas s'approcher de la zone. L'actualité en France avec ces accusations de comportement inacceptable contre Éric Coquerel. Elles sont formulées par Sophie Tissier. Cette militante de gauche et ancienne figure des Gilets jaunes a effectué un signalement au comité de suivi des violences sexuelles de la France insoumise. Elle accuse le tout nouveau président de la commission des finances de l'Assemblée d'une forme d'agression selon ses mots. Une affaire qui dure depuis maintenant 4 ans, Wilfried de Villers.
Oui, Sophie Tissier avait déjà témoigné une première fois de façon anonyme contre Éric Coquerel, sans explicitement d'ailleurs le nommer. C'était en 2018 auprès d'une journaliste du magazine Cosette et elle s'est de nouveau exprimée sur Mediapart ce samedi. Elle parle notamment de mains baladeuses lors d'une soirée en discothèque et de plusieurs SMS insistants d'Éric Coquerel pour qu'elle rentre avec lui. Des accusations qu'il a démenties plusieurs fois ce week-end dans une tribune publiée dans le JDD et sur BFM aujourd'hui en milieu de journée.
Je ne dis pas avoir dansé avec elle, mais ce que je nie absolument, c'est tout ce qui pourrait justement s'apparenter à des gestes déplacé, des gestes, on va dire, de drague agressive, même si vous voulez.
Éric Coquerel parle pour sa part d'un simple flirt et il pointe du doigt le revirement de Sophie Tissier qui a saisi ce matin le comité de suivi contre les violences sexistes et sexuelles de la France insoumise alors qu'elle ne l'a pas fait en 2018.
Elle, hier, dans Mediapart, puisqu'elle a rechangé d'avis, explique, je cite, « Et si je n'avais pas souhaité saisir la cellule et les filles a posteriori, c'est que ce n'était pas suffisamment grave. »
Le député LFI dit qu'il n'exclut pas de porter plainte pour diffamation contre Sophie Tissier.
Wilfried de Villers.
Bientôt un nouveau gouvernement pour la France.
L'annonce sera faite en début de semaine, logiquement, avant le discours de politique générale prononcé par Elisabeth Borne mercredi. Avant cela, les derniers ajustements. La première ministre s'entretiendra à nouveau avec Emmanuel Macron. Le président, affaibli par les dernières élections, joue gros avec ce remaniement, comme nous l'explique le sondeur et politologue Jérôme Sainte-Marie, président de l'Institut Polling-Vox.
Il y a un affaiblissement très net de la crédibilité du président de la République qui est victime cette fois-ci d'une crise dont il est largement la cause. Ça n'a rien à voir avec les événements qui avaient marqué son premier quinquennat. Et donc là, il encourt le risque d'une perte d'autorité, ce qui, vu l'organisation du pouvoir sous la Ve République, aurait des effets dramatiques. Il a perdu certains de ses fidèles, comme M. Castaner ou M. Ferrand, des marcheurs, si j'ose dire, de la première heure. Et inversement, des ministres venus de la droite, mais qui lui posent davantage problème, c'est-à-dire M. Darmanin et M. Abad, eux ont été confirmés par les électeurs. On voit bien que dans le contexte, un post-MeToo, ça devient très difficile.
Et Jérôme Sainte-Marie avec Thierry Dagiral sur Europe 1.
19h05, 130e jour de guerre en Ukraine. La Russie continue son avancée dans le Donbass.
Les villes de Sloviansk et Kramatorsk ont été lourdement bombardées. Plusieurs victimes sont à déplorer, Nina Droff.
Oui, 6 morts et 15 blessés. Un bilan provisoire puisqu'il y a encore beaucoup de débris à déblayer dans la ville. C'est le maire de Sloviansk, Vadim Ilyak, qui a partagé cette information dans une vidéo publiée sur Facebook. Il apparaît en pleine rue alors qu'un gros nuage de fumée noire s'élève derrière lui. Écoutez.
Il y a eu de multiples tirs au lance-roquettes sur Sloviansk, les plus importants depuis longtemps. Il y a 15 incendies, de nombreux morts et blessés.
Dans la ville de Kramatorsk, à seulement quelques kilomètres, les frappes ont touché des immeubles résidentiels mais n'ont fait aucune victime. Et dans la matinée, les forces russes ont aussi annoncé avoir pris la ville de Lysychansk dans la région de Lugansk. Mais le président Volodymyr Zelensky affirme lui que les combats se poursuivent dans la ville. Il est impossible de dire que Lysychansk est sous contrôle russe, a-t-il martelé, tout en reconnaissant que l'armée ukrainienne était en difficulté dans cette zone. Avec la conquête de cette ville, les forces russes bénéficieraient d'une position stratégique pour continuer à avancer vers les villes de Sloviansk et Kramatorsk dans l'ouest du Donbass.
Merci Nina Droff. Et on apprend juste à l'instant que l'armée ukrainienne annonce son retrait de la ville de Lissitchansk.
Dans 8 jours, le gouvernement français présentera le projet de loi sanitaire qui permettra de maintenir les mesures de freinage face à cette flambée d'épidémie de Covid-19.
Le texte prendra le relais de l'état d'urgence sanitaire qui s'achève le 31 juillet, mais qui ne prévoit pas le retour du pass sanitaire. C'est en tout cas ce qu'a affirmé aujourd'hui la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. En attendant la confirmation des mesures pour endiguer la progression du virus, les professionnels de la restauration lourdement impactés par les premières vagues craignent de nouvelles restrictions. Arthur Pereira est allé dans un bar de la capitale où l'inquiétude se fait de plus en plus ressentir.
Seul derrière son bar, Jérôme prépare les cocktails pour la clientèle. Une clientèle au rendez-vous malgré l'augmentation récente du nombre de personnes positives au Covid-19. Inquiet, il craint la mise en place de nouvelles mesures.
Ça va être usant pour nous, pour tout le monde, les touristes qui ne vont pas revenir dans les bars. Déjà que ça a beaucoup changé les habitudes, ouais, c'est inquiétant.
Qu'importe les restrictions, le restaurateur est bien décidé à les respecter pour maintenir l'activité de son bar.
Si dans un premier temps, c'est que le personnel qui doit porter le masque, on portera le masque. Et si on nous demande d'accueillir moins de gens à l'intérieur, on sera obligé d'accueillir moins de gens à l'intérieur. Tout pour éviter une fermeture du bar.
Assis au comptoir, Henri et Marie partagent une bière pour le mariage civil d'une de leurs amies. Masque sous le menton, ils ont décidé d'être plus prudents.
Au boulot ou dans les transports, parce que par rapport à mes collègues, ils ont eu le Covid là récemment, donc c'est reparti, on le sent que ça revient.
Les vacances arrivent bientôt, et donc on doit prendre l'avion et notamment aller vers les États-Unis, donc c'est plus là-dessus.
Malgré les 125 000 nouveaux cas recensés hier, aucune mesure n'est pour le moment envisagée par le gouvernement pour le secteur de l'hôtellerie-restauration.
Arthur Pereira.
Ouais, malgré cette résurgence de l'épidémie de Covid, les Français partent en vacances avec quand même l'objectif de se reposer.
Et ce week-end marque d'ailleurs le coup d'envoi des congés d'été. Les touristes commencent à arriver dans les stations balnéaires, comme dans ce camping de la côte atlantique à Saint-Brévin, sous le soleil. C'est la détente totale. Charles Guyard.
Assis sur les marges de son bungalow, guitare à la main, Patrick fredonne un air d'Eddie Mitchell. Allongé dans un transat à côté, Pascal s'accompagnait aux anges.
Oui, il me fait la sérénade, voilà.
De la musique douce pendant la sieste avec la plage à une centaine de mètres. Bref, le paradis, comme le nom de ce camping de Saint-Brévin-les-Pins, où les vacances ont bel et bien commencé, le patron Nicolas Cherrier.
La saison se présente plutôt bien. Avec le beau temps, tout le monde commence à arriver. Cette année, on voit arriver à nouveau la clientèle étrangère.
Des étrangers comme Val, elle est irlandaise et avec sa famille, elle n'avait plus traversé la Manche depuis 3 ans.
On vient chaque année et avec le Covid, c'était juste pas possible. Et là, on est ici, on est heureux.
Heureux comme cette famille arrivée de moins loin, d'Ille-et-Vilaine, pour quelques jours de repos.
Là, ça va être la plage, se promener, marcher.
Un joli programme qu'Isabelle n'entend pas voir gâché par une reprise de l'épidémie de Covid.
Seules vagues qu'on aura viendront de la mer.
Une mer calme, un ciel ensoleillé et un peu de légèreté. C'est le début de la saison d'été.
J'ai du regard un spot. Voilà.
Saint-Brévin, Charles Guyard, Europe 1.
Le monde du théâtre est en deuil aujourd'hui. Il a perdu une de ses légendes. Peter Brook était celui qui a changé à jamais la face du théâtre en revenant aux fondamentaux, un acteur face à son public. Le Britannique de 97 ans était l'un des metteurs en scène les plus influents du XXe siècle. Il avait également été à la direction du théâtre parisien Les Bouffes du Nord jusqu'en 2010. Jean-Michel Ribes, directeur du théâtre du Rond-Point à Paris, lui rend hommage.
C'était un maître qui avait une inspiration magnifique, un homme qui était accroché presque physiquement et intellectuellement au théâtre. Il avait cette espèce de rapport au texte, c'était quelqu'un qui avait cette volonté d'être tout à fait près du poète. Et il disait que le texte apportait tout. C'est pour ça d'ailleurs qu'il ne voulait pas de décor. Il a été aussi quelqu'un qui a apporté énormément de rapports dans la direction d'acteur. Il avait une troupe, ses comédiens étaient des comédiens venus du monde. C'était quelqu'un qui a ouvert des portes dans l'art dramatique et dans la manière de mettre en place le théâtre et les pièces nouvelles. Vraiment, il a fait beaucoup pour ça.
Jean-Michel Ribes, directeur du théâtre du Rond-Point à Paris. Autre disparition aujourd'hui, celle du bijoutier Jean Dinvan, formé chez Cartier. Il s'inspirait de nombreux objets pour en faire des bijoux, comme les lames de rasoir, encore les menottes. Il s'est éteint la nuit dernière près de Paris, des suites d'un AVC. Il avait 94 ans.
Allez, on passe au sport. Et on commence bien sûr par le Tour de France.
La troisième étape est la dernière au Danemark. Étape remportée au sprint par le Néerlandais Dylan Groenewegen. Le maillot jaune est toujours sur les épaules du Belge Van Aert. Et après l'arrivée, les coureurs regagnent à présent la France, Martin Lange.
Oui, juste après l'arrivée, les coureurs ont très vite filé dans leur bus, une douche rapide et ils prennent la route direction l'aéroport. Toutes les équipes partent ce soir, ils ne devraient d'ailleurs pas tarder à décoller. Arrivée prévue vers 21h à Lille et à Calais. Un sacré voyage quand même, mais qui n'inquiète pas du tout le Français Alexis Goujard.
C'est assez bien organisé, donc nous on va y aller en avion, donc ça va aller. On va directement prendre le vol et arriver vers 21h, 22h, donc on va pas trop traîner, on va aller se coucher. Et le lendemain, c'est repos, donc ça devrait bien se passer.
Et oui, demain, c'est relâche. Les coureurs devraient quand même monter sur leur vélo dans la matinée, histoire de ne pas perdre le rythme. Et il y en a un qui va sûrement passer une très bonne journée de repos. C'est le Belge Wout Van Aert. Très impressionnant depuis le début du tour. Il a fini deuxième des trois étapes. Il porte le maillot jaune. Et le programme de la semaine à venir semble lui convenir à merveille.
Martin Lange, oui, qui nous fait vivre avec Axel May le Tour de France sur Europe 1.
Allez, une étape sur laquelle d'ailleurs va revenir Europe 1 Sport ce soir, mon cher Jean-François Pérez, bonsoir.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Et oui, le Club Tour 19h40 et puis Europe 1 Sport 20h avec un gros programme encore ce soir. On va parler de Saint-Etienne. Tenez, les Verts, vous savez, ils sont tombés en deuxième division. C'est un club qui est à vendre mais qui n'est pas vendu. Les supporters commencent à être un petit peu verts de peur pour faire un mauvais jeu de mots. On ouvrira le dossier AS Saint-Etienne. L'OM également au centre de l'actu. Le Paris Saint-Germain, comme d'habitude, qui attend Christophe Galtier. Signature en début de semaine, si tout va bien pour le nouvel entraîneur. L'OGC Nice aussi ce soir au programme. Le foot européen, parce que Cristiano Ronaldo a annoncé son intention de quitter Manchester United et ça pourra avoir une espèce d'effet domino sur tout le marché des transferts cet été. Et puis je vous recommande, hormis le tennis, puisqu'on aura deux Françaises demain en huitième de finale à Wimbledon, un témoignage européen ce soir. C'est un journaliste sportif russe qui a décidé de quitter son pays. Il nous racontera ce qu'est devenu le sport en Russie sous Vladimir Poutine. Voilà, Europe 1 Sport à partir de 20h.
Passionnant témoignage. Merci Jean-François Pérez.
La Formule 1, le Grand Prix de Grande-Bretagne a été remporté par Carlos Sainz sur Ferrari. Une course mouvementée interrompue dès le début après un accident impliquant plusieurs pilotes. Aucun n'a gravement été blessé. Puis un petit mot de football pour vous dire que la Coupe d'Afrique des Nations prévue en juin et juillet de l'année prochaine en Côte d'Ivoire a été décalée à début 2024.
Merci, c'était le journal de Sophie Tussaud et on regarde le ciel de nos régions dans le détail, Valérie Darmon.
Absolument, et je commence par le nord de la Loire, jusqu'en Vendée et à l'opposé jusqu'en Alsace, avec une superbe journée d'été annoncée par Météo France. Un soleil généreux et des températures très agréables. Des Charentes au Limousin, au nord de l'Auvergne et du Morvan au sud de l'Alsace, votre ciel hésite entre cumulus et soleil, mais vos thermomètres affichent 28 degrés en moyenne. Du bassin aquitain, aux Pyrénées, à Rhône-Alpes, jusqu'au Jura, le temps est lourd, il donne donc des orages plus marqués en montagne qu'en plaine. Près de la Méditerranée, le temps est ensoleillé et toujours très chaud avec 33 en moyenne sur la Côte d'Azur, 35 sur le littoral du Roussillon et sur l'île de Beauté et jusqu'à 38 du Languedoc à la Provence.
Merci Valérie Darmon, 7h15 du soir et dans un petit instant ce sont les débats de Panorama, Panorama qui vous intéresse à des choses diverses et variées comme on dit et aujourd'hui cap sur Gergovie, toute l'histoire sur un plateau, le musée archéologique propose une exposition phénoménale, César à Gergovie, un peu d'histoire, ça va nous faire du bien, allez à tout de suite.
Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Et n'oubliez pas, à 19h40 tout à l'heure, le Club Tour avec Axel May. Dernière étape aujourd'hui au Danemark. Donc après, on part en France. Mais ça sera encore un dernier Club Tour du Danemark avec Axel May. 19h16, nous, on part du côté de Clermont-Ferrand. Enfin, pas très loin, à Gergovie. Ce lieu, évidemment, qui sonne dans nos cerveaux, dans nos mémoires. On se remémore nos cours de CE1, CE2 avec cette bataille de Gergovie. Et j'accueille Arnaud Pocris. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur culturel et médiation des publics au musée de Gergovie. Bonsoir à Dominique Garcia. Vous êtes le président de l'INRAP, l'Institut de recherche archéologique préventive, professeur à l'Université d'Aix-Marseille, auteur de « Les Gaulois à l'œil nu ». D'ailleurs, Dominique Garcia, petite question comme ça au débeauté avant de nous intéresser à cette exposition au musée de Gergovie. Est-ce que Vercingétorix, les Gaulois, mis à part Astérix, est-ce que ça fait encore rêver les Français ?
Oh ben oui, je pense. On a tous eu en main, effectivement, un Astérix en main, un livre d'école qui nous parlait des Gaulois. Mais en plus, on retrouve encore les traces des Gaulois dans nos paysages, les sites archéologiques, les noms de lieux. Donc, effectivement, je pense que les Gaulois sont nos ancêtres parmi d'autres, mais des ancêtres qui résonnent différemment.
Arnaud Pocris, cette exposition qui a commencé le 18 juin 2022, donc cette année dans votre musée, qui va d'ailleurs se prolonger jusqu'à tard, hein, jusqu'au 8 mai prochain 2023. Cette exposition, elle a été basée sur les découvertes archéologiques de ces dernières années ?
Oui, en fait, le musée de Gergovie a ouvert en 2019 et il se trouve que depuis, il y a de nombreuses découvertes archéologiques et travaux qui ont été menés sur l'emprise de ces camps romains au pied de l'oppidum gaulois et qu'il était important pour nous de mettre en lumière justement ces nouvelles découvertes qui renouvellent un peu, enfin qui à la fois confirment ce qu'on savait déjà sur l'emplacement de ces camps, mais qui apporte de nouvelles informations, notamment sur l'organisation interne du camp et la manière dont vivaient les légionnaires.
Qu'est-ce qu'on a découvert précisément ?
Alors, un certain nombre de fours, 5 fours culinaires, en fait, qui étaient donc des petites unités de cuisson réservées chacune à une tente hébergeant 8 légionnaires. Donc, ces fours, en fait, permettaient à ces 8 légionnaires de se préparer leur repas. Il n'y avait pas de cantine générale à l'échelle du camp, hein, donc chacun se préparait ses repas en fonction de ce qui lui était fourni par l'armée et éventuellement d'aliments qui étaient chassés, enfin des compléments qui étaient trouvés sur place, soit par la chasse, soit par le pillage.
Les toutes dernières choses que vous avez retrouvées, les toutes dernières fouilles, c'était quoi ?
Alors, en l'occurrence, un élément un peu... émotionnel, en tout cas non, un peu anecdotique, on a découvert un piquet de tente, justement, romain, une sardine, hein, tout simplement, et voilà, qui date de plus de 2000 ans.
Ça, c'est formidable de pouvoir découvrir cela plus de 2000 ans après et de savoir quelle est la sardine romaine et la sardine gauloise.
Oui, alors là, en l'occurrence, il n'y a pas de doute, puisqu'on est vraiment... Enfin, la découverte a été faite sur un fossé de fortification romain. Et on s'aperçoit que finalement, la technique a peu évolué depuis 2000 ans.
Oui, comme quoi les bonnes recettes restent justement pour la suite. Dominique Garcia, quand vous avez, j'allais dire, écho de ces trouvailles, évidemment, ça vous remplit de joie.
Bah oui, bien entendu, c'est de la joie, puis c'est chaque fouille archéologique est une pièce d'un puzzle qui permet un peu de restituer notre histoire. Donc effectivement, les fouilles réalisées sous le contrôle de la DRAC de l'État sous les pentes de Gergovie permettent à la fois de documenter l'emplacement des troupes romaines, mais aussi les liens avec le site de Gergovie, le site gaulois, et puis également nous renseigne sur les recherches de nos ancêtres archéologues du 19e siècle, et notamment les archéologues intervenus sous les ordres de Napoléon III, et qui eux aussi recherchaient les traces de ces combats entre les Gaulois et les Romains. Donc c'est des fouilles, vous voyez, multiples, qui permettent à la fois de documenter cette présence gauloise et cette présence romaine dans ce secteur, d'enrichir notre patrimoine et notre histoire, mais aussi de raconter un peu l'histoire des recherches sur le long terme, parce que les études sur les Gaulois ne datent pas d'hier et qu'à chaque génération, on essaie d'en savoir plus sur ce moment crucial de notre histoire.
Alors c'est un moment crucial de l'histoire, Dominique Garcia, vous faites bien de le dire. Je ne vous demande pas évidemment de vous attarder plus que cela, mais pour ceux qui n'ont, j'allais dire, jamais entendu parler de la bataille de Gergovie, ou en tout cas, c'est très très lointain dans leur esprit, qu'est-ce que c'est, pourquoi est-ce que ça arrive et comment est-ce que ça devient presque une césure dans l'histoire de France ?
Il y a peut-être au départ des intérêts économiques, c'est-à-dire les Romains qui exploitent les ressources de la Gaule, ou du moins qui font du commerce avec les Gaulois. Ils sont intéressés par le blé, ils sont intéressés par l'or, ils sont intéressés par les esclaves. Donc les Romains, avant même d'intervenir politiquement, militairement, en Gaule, ont des liens économiques avec cet espace. Et puis, à un moment donné, dans la tête sans doute d'un général pas comme les autres, le général César, il vient l'idée de conquérir cet espace. Donc, il faut un prétexte. Le prétexte, c'est en 58 avant Jésus-Christ, des Helvètes, donc une tribu qui tente un petit peu de bouger, des témoignages qui montrent que ces tribus peuvent être dangereuses pour des alliés des Romains, en l'occurrence c'est les Éduins, un peuple qui vit en Bourgogne, ouais. Et donc le général dit « je vais venir là pour calmer un petit peu l'ardeur de ces Éduins », et puis là commence cette guerre des Gaules en 58 avant Jésus-Christ. Et progressivement, ce général, effectivement, essaiera de conquérir cet espace gaulois, celui de ses 60 tribus, dont celle des Arvernes, une tribu extrêmement puissante, placée au centre de la Gaule, aujourd'hui, on va dire, l'Auvergne actuelle, dont la capitale, mais il y a plusieurs sites qui peuplent cet espace, dont la capitale est probablement Gergovie. Et donc Gergovie restait dans l'histoire et aujourd'hui revêt un caractère spécifique parce que c'est une des rares défaites de César. Donc le Vince Argentorix, ce roi puissant des Arvernes, saura un petit peu freiner l'ardeur des troupes romaines, saura les faire reculer. Et donc, la bataille de Vercingétorix contre César à Gergovie en 52 avant Jésus-Christ est la première défaite notable des Romains. Donc, un point fort dans l'histoire avant la défaite cruciale, cette fois-ci, des Gaulois, et en l'occurrence de Vercingétorix, en 52 à Alésia.
Arnaud Pocris, Dominique Garcia vient vraiment de nous... résumer de façon très précise et à la fois assez courte cette bataille de Gergovie. À quel moment décide-t-on de construire un musée pour un événement de l'histoire ?
Alors, en fait, ça remonte à très longtemps, puisque finalement, les fouilles archéologiques ont commencé très tôt sur le plateau de Gergovie, et notamment au XIXe siècle, puis reprise dans les années 1930, dans les années 1940. Et un premier petit musée a ouvert ses portes dans un restaurant qui était situé sur le plateau de Gergovie, la hutte gauloise. Et finalement, oui, c'est le premier embryon d'équipement muséographique sur le plateau, qui va être ensuite repris en 1992 par un deuxième musée un peu plus conséquent, celui-ci, donc qui s'appelait la Maison de Gergovie. Plus conséquent, mais peut-être pas tout à fait à la hauteur de la notoriété du site. Donc il a été nécessaire à un moment de réfléchir à une nouvelle structure qui soit capable d'accueillir le public du plateau de Gergovie, qui accueille pratiquement 250 000 visiteurs chaque année.
Mm-hmm. C'est qui les 250 000 ? Ce sont des classes principalement ? Ce sont des enfants, des élèves ?
Alors non, ce sont en fait vraiment tous les publics, je dirais. On est très très près de Clermont, donc les Clermontois sont très très friands de ce site naturel qui est à quelques kilomètres de chez eux, un peu en hauteur, donc qui permet de prendre un peu l'air parfois.
Mais on a des étrangers aussi.
Oui, quelques étrangers.
Des Italiens qui viennent.
Non, peu d'Italiens, des Belges souvent. Des Belges qui font partie d'ailleurs des Gaulois. Mais oui, on a à peu près une moitié de locaux en fait, qui viennent sur le plateau et une moitié de touristes.
Arnaud Pocris et Dominique Garcia sont avec nous. On parle de cette exposition César à Gergovie qui vient de commencer au musée archéologique de la bataille. On en parle dans un petit instant. Il y a encore plein de questions pour nos deux spécialistes. À tout de suite.
Europe Soir Weekend. Pierre de Villeneuve.
Suite des débats de panorama jusqu'à 19h40 où nous retrouverons le Club Tour avec Axel May du côté du Danemark. César à Gergovie, cette exposition qui a commencé le 18 juin et qui a lieu jusqu'au 8 mai 2023. On parlait des fouilles archéologiques qui sont à l'origine de l'existence de ce musée de Gergovie près de Clermont-Ferrand. Est-ce que Arnaud Pocris, je crois savoir que les visiteurs sont même admis sur les chantiers des fouilles depuis peu.
Oui, alors effectivement, un nouveau chantier de fouilles vient de démarrer donc sous l'égide de l'INRAP et de la Maison des sciences de l'homme de Clermont-Ferrand. Et pour accompagner en fait ce chantier qui va se terminer fin juillet, nous organisons tous les jours, là, pendant les vacances d'été, des visites de chantier, tous les jours à 11h30, gratuites pour bien présenter l'état d'avancement de ces recherches. Et effectivement, sur le plateau de Gergovie, on sent qu'il y a un véritable engouement pour la recherche lorsqu'un chantier de fouilles est en cours.
Mais en quoi ça consiste une visite de chantier ? C'est du sol en fait, donc on ne voit pas grand-chose.
Alors, fort heureusement, on a installé une plateforme de médiation, enfin dédiée à la médiation. Donc, on amène le public sur cette plateforme qui surplombe en fait le chantier de fouilles, ce qui fait qu'on a une vue un petit peu plus en hauteur du site. Et puis, il y a un certain nombre de structures qui commencent à apparaître tout récemment. Et on essaye de faire comprendre, alors d'expliquer, puisque c'est un site qui a été fouillé déjà anciennement et dont on reprend aujourd'hui l'étude. Mais donc d'expliquer justement pourquoi on refouille un endroit qui a été fouillé anciennement. Ça peut paraître étrange, mais en fait, il y a énormément de choses à comprendre. Un secteur qui est assez obscur dans son interprétation pour l'instant.
Qu'est-ce qu'on espère encore découvrir ?
Beaucoup de choses en fait. On estime qu'il y a entre 2 à 3% de la surface du plateau qui a été fouillée jusque-là, donc c'est quand même très peu. Le plateau étant lui-même très grand puisqu'il fait 70 hectares. Et donc on espère comprendre en fait à la fois l'organisation urbaine de la ville gauloise qui reste encore un peu un mystère, et surtout en fait les différentes phases d'aménagement. En fait, ce qui apparaît à Gergovie lorsqu'on fait des fouilles, c'est que en quelques décennies finalement, puisque le site est occupé pendant 80 ans à peu près, il est abandonné au début de notre ère, il y a plusieurs phases d'aménagement qui se succèdent avec parfois des destructions complètes des aménagements précédents. Et donc chaque génération finalement réaménage son secteur, et c'est ce qui est très difficile à comprendre. Et en tout cas, ce qu'on voit à Gergovie, c'est la rapidité avec laquelle va se mettre en place la romanisation en quelque sorte, qui est visible dans les aménagements architecturaux.
Alors la romanisation, c'est-à-dire l'influence de la culture et du mode de vie des Romains sur les Gaulois.
Oui, c'est ça en fait, c'est quelque chose qui très certainement est dès les premières relations avec les Romains, les relations commerciales, c'est quelque chose qui se perçoit parfois sur les sites gaulois, mais qui s'accélère évidemment après la guerre des Gaules. Et donc Gergovie est vraiment peut-être un très bon laboratoire pour pouvoir étudier cette phase-là, justement, juste après la conquête, entre la fin de la conquête par César et puis la mise en place du pouvoir romain un peu plus présent, on va dire, sous le règne d'Auguste à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ.
Dominique Garcia, puisque l'INRAP, justement, fait partie de ce chantier de recherche, qu'est-ce que vous espérez encore découvrir, comprendre, pour rajouter à ce que vient de dire Arnaud?
Le mot est dédié, c'est la notion de laboratoire. Aujourd'hui, une fouille archéologique, c'est un laboratoire à ciel ouvert. Là, en l'occurrence, Yann Deberge et Marion Dacot fouillent le site avec des étudiants, avec des jeunes chercheurs, et on se pose effectivement des questions sur les origines anciennes de ce site gaulois, mais également ce processus de romanisation. Donc on voit dans ce quartier d'artisans comment les populations, en-delà des conflits militaires, au-delà du changement de statut, occupent le site, le vivent, le font se transformer. Et donc c'est ça aujourd'hui un chantier de fouilles, c'est documenté par des éléments matériels, un élément fort de notre histoire, produire du patrimoine qui, on voit, intéresse les populations, et puis permet d'illustrer plus clairement un discours historique un peu flou, voire un récit national qui a évolué à travers le temps. Mais là, on revient aux sources, aux archives du sol, pour mieux documenter ce qui était vraiment le site.
Qu'est-ce qu'on sait jusqu'à présent, et je pose la question à vous deux, à Arnaud Pocris et Dominique Garcia, qu'est-ce qu'on sait sur les stratégies militaires à la fois de César d'un côté et de Vercingétorix de l'autre?
On a
Oui, oui. Allez-y, Dominique.
On a affaire à deux grands stratèges, hein, de la part de César. Il y a une bonne connaissance des lieux, des renseignements. Il s'appuie également sur des alliés locaux. Il ne faut pas voir ça. Faut pas voir un bloc gaulois contre un bloc romain. Il faut savoir que la partie méridionale du pays, la Provincia, a été déjà romanisée quand César intervient dans le reste de la Gaule, donc toute la partie sud de la France était déjà romanisée. Donc il y avait une bonne connaissance de ce secteur de la part du conquérant, et il va jouer peut-être les conflits d'intérêts entre les différentes tribus gauloises, notamment ses alliés éduins, les gens de Bourgogne, avec qui les Romains entretenaient des bonnes relations. Il va s'appuyer sur ces troupes-là pour ensuite essayer de conquérir cet espace. Et en face, effectivement, il y a une série de peuples plus ou moins bien organisés, mais en tout cas pas fédérés pour faire face à cette conquête romaine. Et puis surgit cette image de Vercingétorix, donc effectivement un personnage ambitieux, jeune, qui va essayer, lui, de regrouper, de fédérer les Gaulois contre les Romains. Sans doute un peu tard, sans doute sans avoir le poids politique et les informations dont bénéficiait César, mais en tout cas, il va être effectivement un combattant à la hauteur de César. D'ailleurs, presque tout ce qu'on connaît de Vercingétorix, on le connaît au travers des écrits de César. Et on est à la fois étonné de la manière dont César décrit ce personnage, fougueux, entreprenant. Peut-être on peut imaginer que César a un peu forcé le trait, c'est-à-dire qu'à un moment où il avait du mal à conquérir le pays, peut-être il a attribué à Vercingétorix des qualités qu'il n'avait pas, pour renforcer un petit peu sa place à lui et montrer que quand il avait des difficultés, ce n'était pas lié à ses propres insuffisances, mais aux capacités, aux qualités de cet ennemi, en le Gaulois, en l'occurrence Vercingétorix.
Qu'est-ce que, d'ailleurs, Arnaud Pocris, sur Vercingétorix lui-même, certains observateurs disent qu'il est davantage un mythe qu'un véritable guerrier. Qu'est-ce que vous répondez à cela?
Effectivement, c'est une question qu'on peut se poser. Certains chercheurs ont même remis en cause le fait qu'il ait pu exister en disant que César avait tellement peu souffrir de la résistance des Gaulois qu'il s'était inventé un mythe. Or, ça c'est quand même remis en question par le fait qu'il existe des pièces de monnaie à l'effigie de Vercingétorix et à son nom, ce qui authentifie quand même son existence. D'ailleurs, pour revenir sur les stratégies, d'ailleurs, Vercingétorix, lui, semble avoir appliqué une stratégie pour affaiblir les légions romaines pendant l'année 52, c'est qu'il essaye de les couper de leur ravitaillement, de leurs ressources. Il faut imaginer la quantité de fourrage, de céréales nécessaires pour alimenter une légion en marche à Gergovie. 6 légions sont présentes, il faut 25 tonnes de céréales par jour pour alimenter ces hommes. Et donc ce qu'essaye de faire Vercingétorix, c'est vraiment de fragiliser les légions romaines en les coupant de toute possibilité de ravitaillement, en brûlant même les réserves de blé gaulois.
Donc c'est une stratégie vraiment militaire, reconnue, etc. On disait, Dominique Gassia à l'instant disait que Vercingétorix existe d'une certaine manière via les écrits de Jules César. Lui-même, Vercingétorix, est plutôt un taiseux, il n'a pas laissé de notes, il n'a pas laissé d'écrits.
Alors les Gaulois n'écrivant pas ou très peu ou uniquement sur des documents plutôt administratifs ou à usage magique, on va dire.
L'usage magique, qu'est-ce que c'est?
Oh, c'est quelques inscriptions qu'on retrouve sur, par exemple, des tablettes céramiques ou des tablettes de plomb, de rituels ou de qu'on appelle des défictions, en fait, qui sont des mauvais sorts jetés à des ennemis. Mais en tout cas, ça ne fait pas un récit de la guerre des Gaules. Et, Et donc, on n'a pas le pendant de César côté gaulois en termes de texte relatant les événements. Donc, on a comme unique source celle d'un des participants et de celui qui, d'ailleurs, à Gergovie, a essuyé un échec. Donc, on imagine bien que sa manière de raconter ce qui s'est passé n'est peut-être pas tout à fait proche de la réalité.
Alors évidemment, cette exposition qui vient de commencer, elle est agrémentée de plusieurs choses. Il y a des fêtes gauloises, c'est ça ? Il y a un archéobus, il y a des ateliers en famille ?
Oui, alors tout au long de l'été, effectivement, on va proposer des animations donc qui sont soit des visites guidées, soit effectivement des animations à base de reconstitution romaine, notamment pour les journées du patrimoine où nous aurons des légionnaires en fait sur place qui présenteront leur mode de vie.
Des légionnaires de l'armée, donc des vrais légionnaires, vous voulez dire.
Oui, pardon, des légionnaires de l'armée romaine.
Oui, c'est ça, oui. Non, parce que là, je pensais aux légionnaires avec le béret vert, quoi, voilà.
Voilà. Donc, ce genre d'animation. Effectivement, un archéobus aussi, alors qui est important pour le musée de Gergovie, puisqu'il permet de relier plusieurs sites gaulois à partir de Gergovie, en passant à proximité des camps romains. Donc, on entraîne les visiteurs pendant 4 heures, en fait, avec un guide conférencier ou une guide conférencière, sur les sites voisins de Gondole et de Coran, qui sont également des oppidats qui ont été occupés à peu près à la même époque.
Extraordinaire. Il y a même un parcours enquête en famille, une sorte de Cluedo. Merci beaucoup à vous deux. Merci à Arnaud Pocris, merci à Dominique Garcia pour cette exposition donc à Gergovie. Merci à tous, merci à mes équipes et merci à Capucine Patouillet qui a eu l'excellente idée de ce sujet César à Gergovie. Je vous laisse, très bonne soirée sur Europe 1. Le Club Tour, c'est dans un instant avec Axel May.